Vous êtes sur RTL.
Matin à 7h06, bien, on passe le témoin à Yves Calvi qui va s'occuper de vous et vous réveiller jusqu'à 9h30. Bonjour Yves.
Avec grand plaisir, cher Julien. On attend Marina qui va nous rejoindre.
J'arrive, le temps de monter les escaliers.
Et le temps a l'air de se présenter plutôt agréablement. Merci à tous les deux et à l'équipe de nos petits matins. En pleine période de déclaration de revenus, nous vous emmenons ce matin dans les coulisses de Bercy où une trentaine de contrôleurs fiscaux nouvelle génération travaillent avec des algorithmes. Je m'explique. Leur but, débusquer tout ce qui échappe à la vigilance des contrôles classiques. Je peux vous dire que ça marche. Vous entendrez le reportage exclusif d'Arnaud Touche aux alentours de 7h15. Lui est passé par Bercy, mais aujourd'hui, il est ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin est ce matin l'invité politique de votre matinale sur RTL. Il répondra dès 7h40 aux questions de Benjamin Sportouche. La lutte contre le trafic de drogue, la sécurité au quotidien, bref, deux préoccupations que connaissent tous les Français. Enfin, nous reviendrons à 8h20 sur l'engagement du président Macron, la fermeture de nos centrales à charbon. Où en est-on exactement? Les réponses de notre spécialiste et brigadiste Virginie Garin et la réaction du directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard. Si vous avez des problèmes d'arthrose, Michel Simès vous donne ses conseils à 8h15. Et si vous aimez la pizza reine, mais oui, c'est Cyril Lignac qui vous attend juste avant 9h. Nous sommes le mardi 20 avril 2021. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, la piste d'un étrange gourou pour expliquer l'enlèvement de la jeune Mia.
Figure de la sphère complotiste, ce Français réfugié en Malaisie est désormais visé par un mandat d'arrêt international. Il est soupçonné d'avoir organisé l'enlèvement depuis l'étranger. Dans ce journal, nous irons à Tourcoing où pour avoir stoppé un rodéo sauvage, les policiers font face depuis plusieurs jours à de violents affrontements. Une révolution chez Carrefour, la fin des tickets de caisse et milliards de petits papiers qui la plupart du temps terminent à la poubelle. Et puis, malgré les sanctions brandies par l'UEFA, les créateurs de la Super League maintiennent leur volonté de démarrer la compétition, peut-être même d'ici cet été.
La politique, William Galibert.
Emmanuel Macron n'a pas que des amis en Vendée. On va revenir sur ses relations troubles avec Pierre et avec Philippe de Villiers.
Dès la fin du journal.
RTL Matin.
Une semaine après l'enlèvement de la jeune Mia retrouvée dimanche matin dans un squat en Suisse avec sa mère, un homme est donc désormais dans le radar des enquêteurs. Selon nos confrères du Parisien, il s'agit d'un Français réfugié en Malaisie et qui pourrait avoir, depuis l'étranger, au minimum inspiré les ravisseurs, voire même peut-être financé toute cette opération. Bonjour Guillaume Chiez.
Bonjour.
Cet homme, il s'appelle Rémi Daley-Widman et un mandat d'arrêt vient d'être lancé contre lui.
Oui, car son nom serait revenu à plusieurs reprises dans la bouche des ravisseurs de Mia. Il serait le lien entre eux et la mère de la petite fille. Rémi Daley-Widman n'est pas tout à fait un inconnu pour les enquêteurs complotistes, xénophobes. Ses vidéos diffusées sur Internet ont un certain succès. Rémi Daley-Widman a la verve d'un homme politique. Il était d'ailleurs président du Modem en Haute-Garonne avant d'être exclu en 2010. Et depuis, c'est sur Internet qu'il étend son influence dans ses vidéos.
Moi, je ne suis que le pasteur qui se porte au-devant des loups. Partout où vous regardez, les mauvais ont été promus et les bons rabaissés. C'est un système généralisé de la subversion. Ce système fabrique de la haine, du crime, de l'injustice de manière industrielle. Qui ne le voit ? Ce que je vous amène, c'est l'extinction du système.
Un système qu'il tente d'éteindre via les réseaux sociaux. En novembre dernier, un déséquilibré fonce en voiture sur la gendarmerie de Dax. Il explique être adepte des thèses de Daley-Widman. Des tags antisémites sont inscrits sur des stèles à Oradour-sur-Glane. Daley-Widman s'en félicite. Son autre obsession, c'est l'école à la maison. Il incite les parents à sortir leurs enfants du système. Des thèses qui, selon nos confrères du Parisien, auraient séduit la mère de la petite Mia.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Merci Guillaume. La jeune Mia a pu retrouver hier sa grand-mère chez qui elle vivait avant son enlèvement. Sa mère a été incarcérée en Suisse en attendant son extradition en France et sa possible mise en examen.
RTL, il est 7h03. Un déplacement aux aires de campagne présidentielle hier à Montpellier. Emmanuel Macron en mission sécurité.
Rencontre avec des policiers, bain de foule improvisé, tournée des points chauds en voiture banalisée. Emmanuel Macron venu marteler son engagement pour ce qu'il appelle une sécurité du quotidien. Le chef de l'État qui, au passage, a été interpellé par une mère de famille sur le manque de mixité dans les quartiers difficiles. Gérald Darmanin sera, lui, tout à l'heure l'invité d'Alba Ventura.
De Benjamin Sportouche,
à 7h40. Le ministre de l'Intérieur, ancien maire de Tourcoing, qui aura certainement à cœur de réagir sur les violences qui émaillent cette ville du Nord depuis ce week-end. La nuit dernière encore, depuis que les policiers ont mis fin à un rodéo sauvage dans le quartier sensible de la Croix-Rouge. Le reportage sur place d'Antoine Decarne.
Sur le béton du quartier de la Croix-Rouge, il y avait encore des restes de voitures calcinées, de gaz lacrymogène ou de feux d'artifice, les stigmates de ces nuits de violence. C'est une intervention houleuse pour un rodéo urbain à moto qui a entraîné ces affrontements musclés entre jeunes et forces de l'ordre. Benoît Aristidou, du syndicat Unité SGP Police dans le Nord.
Les CRS ont reçu des premiers projectiles en fin d'après-midi. Et puis ensuite, on a eu le droit au fameux tir de mortier qui est devenu à la mode en France. C'est facile, c'est peu cher et puis on peut faire très mal aux forces de l'ordre.
Les affrontements sont récurrents, estime-t-il, depuis 6 ou 7 mois et l'amplification de la lutte contre les drogues.
On gêne le trafic de stupéfiants. Il y a eu beaucoup de saisies réalisées sur la métropole lilloise, ça crée des points de crispation pour ces jeunes, puisqu'ils perdent de la marchandise et donc je pense qu'effectivement, notre présence elle dérange.
Et pour Arnaud Boutelier, secrétaire régional adjoint Alliance, la police a besoin d'une justice plus dure.
Vu de ce qui est passé à Vitry-Châtillon, il nous faut apporter des réponses fermes face à ces jeunes délinquants et si on n'arrête pas ce fléau, on va aller jusqu'où ?
Sur le terrain, ils demandent des effectifs supplémentaires pour éviter une escalade de la tension.
Un reportage signé Antoine Decarne. Jean Castex attendu aujourd'hui, lui, sur le chantier d'un centre pénitentiaire à Lutterbach dans le Haut-Rhin. Le Premier ministre doit dévoiler la liste des sites retenus pour la construction de nouvelles prisons. 15 000 places supplémentaires doivent être créées d'ici 2027.
RTL 7h05, c'était l'une des promesses du candidat Macron il y a 4 ans. Fermer les dernières centrales à charbon, la tâche s'avère plus difficile que prévu.
Il en restait 4 en France. Une en Moselle, une dans les Bouches-du-Rhône. Ces deux-là devraient fermer d'ici la fin du quinquennat. Une autre en Loire-Atlantique qui, elle, devrait rester ouverte au moins pendant 5 ans encore. Seule manière d'approvisionner correctement la Bretagne en électricité. En revanche, c'est terminé pour la dernière, celle du Havre. Elle a cessé de produire depuis le 1er avril, laissant aux ouvriers un sentiment d'amertume. Frédéric Veil.
Plus aucune fumée ne sort des deux cheminées qui culminent à 240 mètres de hauteur. Le site où 220 tonnes de charbon y brûlaient quotidiennement est silencieux. Frédéric Guérin est le secrétaire du syndicat CGT à la centrale.
Ah, c'est sûr, c'est un énorme gâchis. Juste pour satisfaire une élection présidentielle, on ferme pour faire croire qu'on fait de l'écologie en France. Sauf que la réalité des faits, c'est qu'en fermant notre charbon dépollué, eh ben, on va importer du charbon qui vient d'ailleurs. Et donc, du coup, il n'y a aucun intérêt, si ce n'est essayer de faire croire qu'on va gagner des élections, peut-être avec quelques voix vertes.
Les voix vertes, justement, se réjouissent de cette fermeture et du reclassement des agents sur d'autres sites de l'entreprise. Alexis Deck est élu Europe Écologie des Verts à la mairie du Havre.
C'est un nouveau souffle pour l'avenir. C'est pas une déception ou une déchirure, cette fermeture de la centrale thermique, puisqu'il y a cette nouvelle perspective de fabriquer de l'énergie de manière beaucoup plus propre et beaucoup plus saine pour notre environnement.
En effet, c'est seulement à quelques mètres de la centrale qu'a débuté la construction de l'usine de fabrication d'éoliennes en mer, avec à terme 750 emplois directs et indirects.
Reportage signé Frédéric Veil.
À 8h20, je vous le rappelle, l'état des lieux de nos centrales à charbon avec Virginie Garin et les réactions de Greenpeace avec son directeur général Jean-François Julliard. Dans un instant, la fin programmée du ticket de caisse dans les supermarchés, en l'occurrence chez Carrefour. Reportage dans un tout petit instant. Restez avec nous.
RTL Matin.
7h08, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Sauf demande contraire du client, les magasins Carrefour et Système U arrêteront d'ici le mois prochain d'imprimer les tickets de caisse.
Et les deux enseignes ont décidé de prendre un peu d'avance sur la législation qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Les factures, les tickets de carte bleue, les bons d'achat ne seront plus édités systématiquement. Chaque année, ce sont 30 milliards de tickets de caisse qui sont ainsi imprimés en France. Une décision diversement appréciée par les clients, vous l'avez constaté, Benjamin Boucriche, dans ce magasin parisien.
Oui, après avoir passé les caisses, chacun a un réflexe bien particulier avec le ticket, celui d'Harold.
Pour moi, c'est inutile, j'ai pas besoin. Je jette.
Ou celui de Françoise.
Ah, je repars toujours avec, oui.
Cette Parisienne est attachée à son petit bout de papier.
Il y a déjà eu des erreurs, donc après, le ticket fait foi, on va dire. Notamment une fois quand j'avais acheté du champagne et on avait compté plus de bouteilles que je n'avais pris. Si c'est sur des chips, c'est pas grave. Les bouteilles de champagne, c'est plus embêtant.
Le ticket est aussi utile pour les réductions. Imad veille au grain.
Ça me permet de voir si les promotions sont bien passées. On sait ce qui est passé, à quel prix, et s'il y a un problème, on peut y aller voir. Quoi.
Pour Alex, au contraire, c'est devenu inutile.
Moi, je pense que le ticket de caisse, c'est du gaspillage de papier et on n'en a pas forcément besoin. On pourrait avoir ça sur le téléphone directement et ce serait plus pratique. Parce qu'un bout de papier, forcément, on le perd. En règle générale, ça part à la poubelle dès qu'on arrive. Quoi.
Pas d'inquiétude pour ceux qui ne le jettent pas à la poubelle. Si un client en fait la demande, l'employé du magasin imprimera toujours un ticket de caisse.
Un reportage signé Benjamin Boucriche. Aux États-Unis, l'attente du verdict au procès de George Floyd. Le jury s'est retiré depuis quelques heures pour délibérer sur la responsabilité ou non de Derek Chauvin dans la mort de cet homme noir de 46 ans. L'ex-policier encourt jusqu'à 40 ans de prison, même si les condamnations de policiers pour meurtre sont très rares aux États-Unis. Les jurés ayant tendance à leur octroyer le bénéfice du doute. Procès sous très haute tension, émaillé par des manifestations quotidiennes à Minneapolis.
Il est 7h10. Le football européen est en pleine crise depuis 24 heures et l'annonce de la création d'une Super League.
Oui, cette compétition lancée par 12 des clubs les plus riches du continent et qui provoque la fureur de l'UEFA. Un crachat au visage de tous les amoureux du football. Les mots très dur du président de l'instance européenne qui confirme les menaces. Les joueurs et les clubs qui participeront à cette nouvelle ligue seront bannis des compétitions nationales et internationales. Mathias Valton, vous êtes notre correspondant à Madrid. Le président du Real, Florentino Pérez, est le grand instigateur de cette Super League. Et il semble bien décidé à poursuivre le projet. Hein.
Effectivement, de sources proches de Florentino Pérez m'ont assuré hier que les clubs frondeurs étaient déterminés à ce que leur compétition voie le jour, quoi qu'il en coûte. Certains poussent même pour qu'elle débute dès le mois d'août prochain. Ils avaient d'ailleurs anticipé les possibles sanctions ou recours judiciaires promis par l'UEFA et se disent sereins et armés juridiquement pour y faire face. Ils considèrent d'ailleurs que l'UEFA, comme les ligues et les fédérations, ne pourront rien face à leur poids sportif et économique et à l'attraction qu'ils suscitent auprès du grand public, des médias et des sponsors. En résumé, sans nous, vous n'êtes plus grand-chose. Quant au PSG et au Bayern Munich, courtisés pour devenir des membres permanents de cette Super League, les clubs frondeurs sont persuadés que leur adhésion n'est plus qu'une question de temps. Aussi bien sur le plan sportif que financier, ils ne les voient pas refuser bien longtemps de jouer dans la cour des grands. Enfin, un accord tacite aurait été conclu entre le président de la FIFA et les clubs fondateurs de cette Super League. Gianni Infantino a besoin du soutien des plus grands clubs européens pour réformer sa Coupe du Monde des clubs. En échange de quoi, il leur aurait assuré qu'il ne s'opposerait pas à la création de leur Super League.
Mathias Valton à Madrid pour RTL. Et puis les quarts de finale de la Coupe de France de foot démarrent ce mardi soir. Les amateurs de Rumilly-Vallières en Haute-Savoie reçoivent Toulouse à 18h45. Ce sera juste avant Canet, tombeur de Marseille en 8e face à Montpellier à 21h.
On va terminer avec les courses, Dominique. Elles ont lieu aujourd'hui à Chantilly.
Et les pronostics de Dominique Cordier, le 10, le 12, le 5, le 7, le 9, le 4. Hélas, la dernière minute, c'est le 5, Red 50.
C'était le journal de Dominique Tenza. Nous le retrouvons à 8h. À tout à l'heure. La politique avec vous, William Galibert, bonjour.
Bonjour.
Rien ne va plus entre Emmanuel Macron et la famille de Villiers. Après Pierre le militaire, c'est Philippe, l'ancien ministre, qui sort un livre et qui désingue littéralement le président de la République.
C'est d'une violence inouïe. Je vous livre quelques morceaux. Il va à propos du chef de l'État. « Il n'a pas le goût de la France », écrit l'aristo vendéen. « C'est un jeune homme qui n'est pas fini ». À propos de son mandat, c'est un échec complet, juge le seigneur du Puy du Fou. Et l'ultime coup de poignard, c'est le récit intégral de ce dîner, il y a 2 ans, à l'Élysée. Plateau de fruits de mer avec le couple Macron, Philippe de Villiers prétend qu'il a fait vaciller le président entre une huître et un bigorneau. Face à l'islam radical, Emmanuel, vous êtes le Charles Martel du pauvre, lance le souverainiste, et vous avez déshonoré la France avec vos propos sur la colonisation. Philippe de Villiers décrit alors un Emmanuel Macron fâché tout rouge, prêt à quitter la table, pendant que lui se resserre quelques langoustines.
Alors, c'est un livre tout en nuances. On croyait pourtant que ces deux-là entretenaient une relation particulière.
Oui, on le croyait. Fut un temps où tous les pouces étaient levés, où le ministre Macron paradait sur les chars romains du parc d'attractions vendéen. Le souverainiste l'avait adoubé et faisait le récit de leurs échanges réguliers par SMS. Le récit aussi de sa proximité avec Brigitte Macron. Le président, lui, aimait mettre en scène cette amitié hors du commun. Il s'est pris un sacré retour de bâton. L'allié atypique s'est transformé en adversaire déclaré, sans qu'on sache trop ce qui a fait basculer les choses. Mais Emmanuel Macron ne participe pas au combat de gladiateurs. Il laisse sa garde rapprochée traiter le souverainiste de mégalo et d'affabulateur.
Alors, à ce stade, est-ce que Philippe de Villiers pourrait se présenter contre Emmanuel Macron ?
La question s'est aussi posée pour le petit frère, Pierre de Villiers, le général, l'ancien chef d'état-major des armées, désavoué par Emmanuel Macron. Ils y pensent peut-être tous les deux en se rasant. Se verrait bien en recours, mais en fait, il y a peut-être une explication un peu plus triviale. Les deux frangins écrivent et vendent beaucoup, beaucoup de livres. Ah. À la présidentielle, Philippe de Villiers, déjà 2 fois candidat, n'a jamais franchi la barre des 5%. Par contre, en librairie, il descend rarement en dessous des 100 000 exemplaires, ce qui est absolument colossal. 4 livres en 4 ans pour Pierre de Villiers, devenu conférencier dont on s'arrache l'uniforme, l'ordre et la morale. 6 livres en 6 ans pour Philippe. Les deux, tels des auteurs de polars à succès, sont désormais rompus à tous les codes de la promo et des petites phrases chocs.
Dans le livre de Philippe de Villiers, les saillies anti-Macron arrivent après d'autres chapitres où se mêlent pincées de complotisme sur le Covid et plaidoyer anti-immigration. Alors les frères Villiers ont bien dû froisser un peu l'ego séducteur d'Emmanuel Macron, mais a priori, pas encore de quoi l'inquiéter pour 2022.
Merci beaucoup William Galibert. Deux rendez-vous politiques sur RTL aujourd'hui. Je vous signale tout d'abord le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est l'invité de notre matinale à 7h40. Il répondra aux questions de Benjamin Sportouche. Et puis ce soir à 18h, c'est Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, qui sera l'invité de Thomas Soto dans RTL Soir.
RTL Matin, Yves Calvi.
Nous revenons ce matin avec la brigade RTL sur le sort d'Alexei Navalny. Le principal opposant à Vladimir Poutine a été transféré hier vers une prison-hôpital. Celui qui avait été empoisonné en août 2020 au Novichok, un redoutable neurotoxique, avait entamé une grève de la faim il y a 3 semaines pour protester contre ses conditions de détention. Bonjour Christophe Decroix.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service étranger d'RTL. Que sait-on ce matin de l'état de santé de Navalny?
On sait qu'il est très faible. Selon ses proches, il risque la mort à chaque instant. Des médecins extérieurs qui ont pu examiner ses analyses de sang craignent qu'il ne fasse à tout moment un arrêt cardiaque. Vous l'avez dit, depuis le 31 mars, il refuse de s'alimenter. D'abord pour protester contre ses conditions de détention. Il est réveillé 8 fois par nuit. Ensuite parce qu'on lui a refusé jusqu'à présent l'accès à un médecin de confiance alors qu'il souffre d'une double hernie discale. Il a également des problèmes aux jambes, aux mains, selon ses avocats. Il aurait aussi des problèmes respiratoires et l'on sait que certains de ses co-détenus ont la tuberculose. Selon sa femme, qui l'a vu récemment, Navalny ne pèse plus que 76 kilos, c'est 17 de moins qu'à son arrivée en colonie pénitentiaire. Évidemment, tout cela s'ajoute à son état de faiblesse dû à son empoisonnement l'an dernier au Novichok, empoisonnement qui l'avait entraîné dans le coma pendant 3 semaines. Mais malgré ces informations alarmantes, les services pénitentiaires russes jugent son état de santé satisfaisant et il aurait accepté de prendre une thérapie vitaminée. Il faut savoir qu'en Russie, la loi permet de nourrir par force un détenu qui fait la grève de la faim.
Que dit la communauté internationale?
Alors, Washington a menacé Moscou de représailles en cas de décès. L'Union européenne avait demandé à la Russie de fournir à Navalny des soins. Elle a été partiellement entendu puisqu'il est hospitalisé. En revanche, il n'est pas suivi par des médecins indépendants comme cela avait été souhaité. De même, on semble loin de sa libération réclamée par les Européens comme par les Américains. Le militant anticorruption a été condamné en février dernier à 2 ans et demi de prison et rien n'indique aujourd'hui un signe de clémence.
Et en Russie, l'opinion publique se préoccupe de Navalny?
La grande majorité des Russes regardent ce bras de fer d'assez loin. Toutefois, les partisans de Navalny appellent demain soir, jour du discours annuel de Vladimir Poutine, à de grandes manifestations à travers tout le pays. Près de 500 000 personnes ont déjà annoncé sur Internet qu'elles y seront. Manifestations interdites, évidemment, et qui seront réprimées, comme les précédentes ont déjà annoncé les autorités russes.
Merci beaucoup Christophe Decroix. Dans un instant, nous vous emmenons dans les coulisses des nouveaux contrôleurs fiscaux de Bercy et je peux vous dire que vous allez être surpris.
RTL Matin, Yves Calvi.
Nous vous emmenons maintenant dans les coulisses des contrôles fiscaux et notamment de ceux qui s'occupent de faire parler les bases de données du pays. Grâce à une petite équipe d'informaticiens qui créent des algorithmes, les contrôleurs sur le terrain tapent bien souvent dans le mille. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
En exclusivité pour RTL, vous avez pu suivre le travail de ces contrôleurs fiscaux 2.0.
Oui, et pour aller à leur rencontre, il faut marcher dans une bonne dizaine de couloirs qui serpentent dans Bercy, prendre un ascenseur.
Troisième étage.
Puis un deuxième. Et enfin, tout au bout, dans une pièce lumineuse, ils sont 3 au lieu de 30, télétravail oblige, à décortiquer nos données fiscales.
Sur nos écrans, il y a des lignes de code. Globalement, c'est ça, on passe nos journées à coder des algorithmes pour essayer de détecter de la fraude fiscale.
Alexia a 27 ans, elle est data scientist, comprenez, experte en données, mais certainement pas contrôleuse fiscale.
On essaye de modéliser en fait des comportements frauduleux via des règles mathématiques.
Et le fisc connaît beaucoup de choses légalement sur chacun d'entre vous. Il a accès bien sûr à vos déclarations, mais aussi à vos liens familiaux, c'est si vous possédez des comptes à l'étranger et mis bout à bout, ces informations peuvent donner des probabilités de fraude, comme pour cet exemple.
Ici au centre, on a une entreprise qui a été ciblée par nos radars. Elle a une probabilité de fraude qui est estimée par notre algorithme qui est très importante, puisqu'on voit qu'elle est détenue par 2 personnes physiques, Marie-France et Bernard. Bernard, on voit qu'il dirige 3 entreprises et ces 3 entreprises, elles ont été redressées par le passé de façon très importante. Et de même, Marie-France, dans une moindre mesure, elle a dirigé une entreprise qui qui a été redressée aussi de manière très importante. Donc on se dit, cette entreprise-là, étant donné qu'elle a un lien avec Marie-France et Bernard qui ont des antécédents fiscaux, on se dit que probablement elle a une chance de frauder, en tout cas plus importante qu'une autre entreprise.
À partir de ces données, des niveaux de risque de fraude sont établis, comme le détaille Philippe Schall, responsable du bureau de la programmation des contrôles fiscaux.
On produit de cette façon-là des listes d'entreprises qui présentent des risques, ou des listes de particuliers, parce qu'on couvre à la fois des entreprises et des particuliers, et on produit à l'appui de ces listes des rapports où on présente l'entreprise ou le particulier avec les caractéristiques de risque.
Et tous les trois mois, des listes de contribuables ou d'entreprises à risque sont envoyées dans les directions régionales des finances publiques qui décident de réaliser des contrôles ou non en fonction des éléments qu'eux-mêmes connaissent sur le terrain.
Du coup, Arnaud, ces 30 experts en données aident les contrôleurs fiscaux de tout le pays à cibler leurs contrôles ?
Absolument, même si bien entendu, ils sont en contact permanent avec les équipes des finances publiques, comme l'indique Philippe Schall, le responsable du bureau.
Donc les agents qui sont ici sont principalement des informaticiens qui mettent en œuvre des travaux d'analyse de données, mais ils s'appuient sur un réseau qui est composé de fiscalistes et de personnes qui font du contrôle fiscal et qui connaissent donc les problématiques en matière de contrôle fiscal.
Et leur travail est intimement lié aux besoins des agents sur le terrain.
Donc on essaye d'identifier des thématiques. Une thématique, ça peut être par exemple la minoration de recettes, la minoration de chiffre d'affaires dans tel secteur d'activité. Et donc actuellement, on couvre environ 170 thématiques.
En place depuis 3 ans, ces algorithmes sont devenus redoutables pour cibler les contrôles. Et par exemple, la loi autorise désormais à observer les réseaux sociaux, ce qui enrichira encore les bases de données gérées par Alexia.
Pour la plupart des algorithmes qu'on effectue ici, plus on leur donne à manger, plus ils ont de données pour aller modéliser un comportement frauduleux et plus effectivement ils sont performants pour détecter de la fraude.
Ces listes sont désormais pleinement partagées et de plus en plus utilisées par les inspecteurs, à la plus grande satisfaction d'Olivier Dussopt, le ministre délégué en charge des comptes publics.
L'analyse des données prend une place de plus en plus importante aujourd'hui. Un dossier sur 3 de contrôle fiscal est lié à une détection par analyse de données. Cela représente en 2020 plus de 800 millions d'euros de recouvrement qui ont pu être réalisés grâce à cette analyse-là et ça continue de monter en puissance.
Une dynamique que l'État souhaite amplifier. L'objectif est que la moitié des contrôles fiscaux soient issus de ce traitement des données l'année prochaine.
Merci beaucoup Arnaud Touche et n'oubliez pas de remplir votre déclaration fiscale, c'est donc la période. Un contrôle sur 3, vous l'avez entendu, est concerné en ce moment grâce à cette brigade, mais qui n'est pas la brigade RTL, vous l'avez compris. Nous allons passer les cartes météo en revue dans un instant avec Marina Giraudeau. Nous écouterons quelques fake news signées par nos grosses têtes. Et puis on va découvrir une nouvelle pépite avec vous, Anthony Martin. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À tout de suite.
Oui, à tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h25, on retrouve notre pépite avec vous. Pardonnez-moi, Anthony Martin.
On y va. On va voyager ce matin. On va écouter un Italien interpréter en espagnol une chanson américaine.
Oula.
On démarre comme ça. My chérie amour. Bijou, signé Stevie Wonder. C'est une de ses premières créations. C'est mignon comme tout. Il avait 16 ans. Il a écrit ce morceau en quelques minutes pour Marsha, sa petite amie de l'époque rencontrée dans le Michigan. Ils étaient ensemble à l'école pour non-voyants. La chanson s'appelait d'ailleurs au départ Oh My Marsha. Elle n'est sortie que 3 ans plus tard, en 69. Retravaillée entre-temps par les équipes du label Motown parce que les amours passent, Stevie n'était plus avec Marsha. Et la productrice qui prenait des cours de français a décidé du titre. Ça sera My Chérie Amour. Ça fait partie de ces phases B de 45 tours qui ont dépassé les phases A et qui sont devenues d'immenses succès. Stevie Wonder l'a aussi chanté en italien, oui. En espagnol. Et curiosité, 40 ans après lui, en 2009, l'italien Eros Ramazzotti s'est emparé de My Chérie Amour, qui a toujours été une de ses chansons préférées. Il l'a repris dans sa version espagnole, accompagné par les musiciens du Buena Vista Social Club. Un peu de douceur, romantique et exotique, c'est notre pépite du jour. Eros Ramazzotti emmène Stevie Wonder à Cuba. C'est une pépite cachée dans le répertoire du chanteur Eros Ramazzotti. Cette version de My Cheri Amour n'apparaît pas sur ses albums.
Ah oui.
Non, on la trouve dans une compilation intitulée Les Classics de Rhythms del Mundo.
Merci beaucoup Anthony pour cette curiosité pleine de charme. On se dit à demain et bien sûr à tout moment en podcast via l'appli RTL. Nos grosses têtes sont en très grande forme chaque jour de 15h30 à 18h. Voici en tout cas le meilleur des fake news.
Funérailles du prince Philippe. Pippa Middleton a ressorti sa robe ultra moulante qu'elle portait au mariage de sa sœur il y a 10 ans dans l'espoir de réveiller le mort. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné.
Laurent Baffi.
Le gouvernement annonce une quarantaine obligatoire pour lutter contre le variant brésilien. Christina Cordula sera enfermée 15 jours dans son dressing.
Christine O'Krent.
Fin de l'ère Castro à Cuba avec le départ de Raoul Castro aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon vient d'annoncer sa candidature à la présidence de l'île.
Michel Faux.
Voiture autonome sans conducteur. Au Texas, l'accident d'une voiture autonome Tesla fait 2 morts. La marque Tesla s'est réjouie de cette nouvelle en expliquant que s'il y avait eu un conducteur, ça aurait fait 3 morts. Donc, ils ont sauvé une vie.
Vous retrouvez toute l'équipe avec Laurent Day, 15h30. Bonjour Marina Giraudet.
Bonjour Yves.
Ça se gâte par l'ouest ce matin ?
Oui, parce qu'on a une dépression sur l'Atlantique, ça donne un ciel bien couvert de la Bretagne aux Pyrénées. Et il y a quelques averses là vers la Charente-Maritime ou encore les départements pyrénéens. Ça restera comme ça toute la journée, ça gagnera même l'Occitanie. Et le sud-est, Corse, jusqu'à Rhône-Alpes, à part le nord de Rhône-Alpes qui restera sous le soleil. Mais voilà, ça gagnera le sud-est. Profiter du soleil sur le sud-est ce matin, ça ne durera pas. Pour les autres régions, donc une bonne moitié nord du pays, vous aurez un ciel variable. C'est pas du tout homogène. Il y aura des moments où il y aura des éclaircies, d'autres où il y aura des passages nuageux. On peut avoir quelques ondées cet après-midi. Il y a juste les côtes de la Manche qui retrouveront du soleil. Attention aux brumes et brouillards assez nombreux aussi ce matin près des frontières du nord et du nord-est. Et côté température, un petit peu de fraîcheur ce matin, mais cet après-midi, ça continue cette hausse des températures. 20 degrés attendus à Nîmes, 19 à Rennes, 19 aussi à Marseille et Montélimar, 18 à Paris et à Strasbourg. On sera au-dessus des moyennes de saison. 17 degrés à Orléans, 16 à Lille et 14 à Cherbourg.
Menu très varié pour votre météo. Il était signé Marina Giraudot, RTL. Il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Alexandre de Saint-Aignan pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 20 avril. Bonjour Alexandre.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Quand l'industrie automobile doit enclencher la marche arrière pour continuer à vendre des voitures face à la pénurie de semi-conducteurs, l'usine de Sochaux a pris une décision radicale sur l'assemblage de la Peugeot 308. Il n'y a désormais plus de compteur numérique, mais à la place, un bon vieux compteur à aiguille, le délégué CGT de l'usine Franck Plain.
Vous avez un appareil de production qui est organisé en flux tendu avec des pénuries de pièces que ça occasionne. Bon, ben, la direction s'organise pour écouler ses voitures. La réponse, elle sera faite par les clients eux-mêmes. Est-ce qu'ils vont être satisfaits de cette modification ou pas? Est-ce que le geste de 400 euros va leur convenir ou pas? Ça dépend des goûts des clients, hein.
Des propos recueillis par Dimitri Ramelot pour RTL. Une pénurie de semi-conducteurs qui provoque également l'arrêt d'une autre usine PSA à Rennes. Depuis hier, 2000 salariés sont au chômage technique. Aucune livraison de ces composants électroniques indispensables n'est prévue avant la fin de la semaine.
Pour écouler les stocks de vaccins, le gouvernement veut à nouveau élargir la cible.
Une concertation est prévue ce matin au ministère du Travail après les profs et les policiers. Elisabeth Borne souhaite donner accès aux vaccins à de nouvelles professions exposées, assistantes maternelles, agents d'entretien, conducteurs de bus ou encore les éboueurs. Sébastien est impatient.
On est en première ligne parce qu'il n'y a pas que les masques qu'on ramasse. On ramasse tout ce qui est potentiellement contaminé par le Covid. Moi, en moins d'un an, j'étais dans un atelier où il y a eu 12 cas. Il n'y a pas de tests qui sont faits chez nous toutes les semaines, par exemple. Moi, c'est ce que je pensais faire, enfin, ce que je pensais logique, quoi, faire des tests toutes les semaines pour voir qui l'a, qui ne l'a pas, quoi. Après, c'est à savoir quel vaccin. Ça, c'est le grand débat. Mais oui, je suis plutôt pour moi.
Des propos recueillis par Morad Jabari pour RTL. Un déconfinement territoire par territoire, c'est l'idée désormais des défendu par le ministre de la Santé. Dans une interview au Télégramme, Olivier Véran affirme que depuis 5 jours désormais, nous amorçons une décroissance de l'épidémie, même si cette diminution reste fragile. Je cite, nous sommes toujours à un niveau très élevé.
Et je vous rappelle que dans moins de 10 minutes, désormais à 7h40, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est notre invité.
dans sa ville. Encore hier soir à Tourcoing, une troisième nuit de violences urbaines consécutives. Sur place, les policiers réclament des moyens supplémentaires, un sentiment partagé même à l'autre bout de la France. Emmanuel Macron était hier en visite à Montpellier dans un commissariat. Le chef de l'État promet plus de bleu sur le terrain. Christophe est policier depuis 20 ans à Montpellier.
En théorie, ça n'existe pas, mais en pratique, c'est toujours d'actualité la politique du chiffre. On les a dans les bureaux affichés, il y a des bâtons dans des cases. Faire du chiffre, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vers de la facilité. On va pas chercher la complication. Ils préfèrent à la rigueur que vous fassiez 3-4 affaires dans la semaine, des petites boulettes, hein, des choses qui vont pas enrayer le trafic de drogue, plutôt que de faire une super belle affaire. Beaucoup de collègues rentrent dans ce jeu à faire tout et n'importe quoi pour bien se faire voir.
Voilà le ras-le-bol de ce policier au micro RTL de Patrick Tégéraud. Un autre sujet qui risque de faire réagir le ministre de l'Intérieur dans quelques minutes, le débat sur la légalisation du cannabis. Alors qu'Emmanuel Macron veut mettre l'accent sur la lutte contre les trafics de drogue, le député La République En Marche de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, est le rapporteur de la mission parlementaire sur le cannabis.
Si on légalise, déjà on va mieux contrôler, on va mieux faire de la prévention et diminuer la consommation chez les mineurs, ce qui est impératif. Et puis on détruit cet ordre parallèle qui s'est créé dans certains quartiers, tenu par les trafiquants, qui pourrissent la vie des habitants de ces quartiers avec des points de deal, avec un ordre parallèle à l'ordre de la République qui s'est installé et qui n'est pas acceptable.
Jean-Baptiste Moreau avec Jacques Serret pour RTL.
On termine avec le nouveau coup de gueule du King, Eric Cantona.
L'ancienne légende de Manchester United réagit à la création de la Super League. Et comme d'habitude, quand il a quelque chose d'important à dire, Eric Cantona s'exprime en anglais.
Je voudrais dire quelque chose sur la Super League. Depuis un an, on voit des matchs avec les meilleures équipes, les meilleurs joueurs du monde. Mais qu'est-ce que c'est ennuyeux ? Parce qu'il manque les supporters dans les gradins. Les supporters, c'est le plus important. Il faut les respecter. Est-ce que ces clubs qui veulent créer la Super League ont consulté les supporters ? Non. Et c'est une honte.
Voilà, et malgré l'absence de supporters, on va tenter de faire plaisir à Eric Cantona ce soir avec du football, comme on l'aime. Les deux premiers quarts de finale de la Coupe de France avec à 18h45. Les amateurs de Rumilly-Vallières, club savoyard de National 2 qui va affronter les pros de Toulouse. Et puis autre petit poussé à 21h, Canet en Roussillon affrontera Montpellier.
C'était Alexandre de Saint-Aignan pour notre toute info. Merci Alexandre. Bonjour François Lange.
Bonjour Yves.
Il est 7h35, alors on vient d'avoir un bon Eric Cantona en anglais. Et vous François, vous allez nous expliquer en français les enjeux de cette fameuse Super League.
Course. Vous savez que dans la vie réelle, c'est plutôt les pauvres qui font la révolution. Bien dans le foot, c'est le contraire. Ce sont les clubs les plus fortunés. Vous allez comprendre pourquoi le Ballon d'Or n'a jamais autant mérité son nom.
Vos explications dans quelques instants sur RTL. A tout de suite, François.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h37, l'Angléco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Alors, le monde du football, et c'est peu de le dire, est en pleine révolution.
Voilà en effet que 12 clubs européens les plus riches font sécession en annonçant leur intention de créer un championnat concurrent de la Coupe de l'UEFA. C'est l'instance européenne officielle qui dépend de la Fédération internationale. 6 clubs anglais, parmi lesquels Arsenal, 3 espagnols, notamment le Real de Madrid, 3 italiens, avec le Juventus de Turin. Vous voyez que c'est du lourd.
Alors, à quoi ressemblerait ce championnat, en fait ?
Compétition quasi fermée, c'est ça la nouveauté. Après. Où ces 12 clubs fondateurs seraient certains de jouer chaque année. Contrairement à la compétition actuelle de l'UEFA, qui fait concourir plusieurs dizaines de clubs européens, parmi lesquels aussi des petits. Et c'est une compétition dans laquelle la sélection des grands n'est pas automatique, bien sûr. Et il leur arrive d'ailleurs de se rater, malgré leurs stars. Et du coup, ce sont les recettes qui s'effondrent, alors qu'ils ont des besoins financiers considérables.
C'est donc une opération tout simplement destinée à gagner plus.
Oui, vous avez bien résumé, beaucoup plus pour les joueurs, les agents, les clubs et leurs propriétaires. Dans le système actuel, les grands clubs gagnent entre 0 et 100 millions d'euros par an, selon leurs résultats. Avec la Super League, ça serait 260 millions garantis chaque année. Avec en plus un bonus de bienvenue de 330 millions, le tout préfinancé par la banque américaine JP Morgan.
Ah oui.
Un système avec de nouveaux diffuseurs, richissimes, comme Amazon, ou d'ailleurs un autre GAFA, avec moins de risques, sur le modèle des compétitions américaines. Et tout ça au prix de la disparition de ce qu'on appelle l'aléa sportif.
Incroyable.
C'est-à-dire la glorieuse incertitude du sport, qui donne sa chance à chacun et met la pression sur tout le monde, y compris les meilleurs. C'est ça qui déchaîne les critiques des associations de supporters de Cantona qu'on vient d'entendre et des différents responsables politiques, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, Emmanuel Macron. Il n'y a d'ailleurs pas de club français dans le groupe des sécessionnistes. Même le PSG, le plus grand français, n'a pas suivi, pour l'instant, pas d'Allemand non plus.
Et les instances officielles du foot, alors que disent-elles exactement ?
Elles sont furibardes. Hein. Elles estiment que ce projet, c'est le triomphe de l'appât du gain au détriment de l'esprit sportif. La réalité, c'est que si une telle compétition fermée voyait le jour, bah, elle capterait une part importante des droits TV et des ressources publicitaires au détriment du championnat officiel. Ça serait un appauvrissement considérable. Mais ces organismes officiels ne sont pas en position de force parce que le foot est en crise. À cause du Covid, bien sûr, qui a vidé les stades et donc les caisses des clubs. Parce que les clés de répartition des ressources privilégient proportionnellement les clubs plus modestes. Oui. Et puis parce qu'il faut réinventer la Ligue des Champions. Aujourd'hui, elle n'intéresse plus les jeunes, notamment les 15-25 ans.
Comment cette guerre peut-elle évoluer ?
Aujourd'hui, on échange des noms d'oiseaux. L'UEFA menace ainsi d'interdire aux joueurs des clubs renégats de jouer dans les sélections nationales pour la Coupe du Monde. Mmh. C'est pas rien.
Non.
Et le match pourrait se finir au tribunal, tant les enjeux sont importants. Il s'agit tout bonnement de la transformation du sport le plus populaire du monde en business de l'entertainment, comme les jeux vidéo et les parcs d'attractions.
Je crois que les choses sont claires. Merci infiniment François Langlais. On vous retrouve sur RTL.fr pour le hors-série de l'Angleco. Il est 7h41. Bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, veut une vie plus paisible. Mais du coup, ce virage sécuritaire, est-ce l'aveu d'un échec de ces 4 dernières années ? On va lui poser la question.
Bah, je vois, oui. A tout de suite avec le ministre de l'Intérieur.
RTL Matin. Avec Yves Calvi. RTL Matin. Avec Yves Calvi.
Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes toujours en confinement, les contrôles se poursuivent. Y a-t-il un relâchement des Français ? Est-ce que vous avez constaté une augmentation des amendes que vos forces de l'ordre ont remis aux Français ces derniers temps ?
Non, il n'y a pas de relâchement. Ce week-end, il y a eu 100 000 contrôles, 16 000 verbalisations. On est dans la moyenne des verbalisations, dans la moyenne des contrôles par les forces de l'ordre. Je crois que les Français, dans cette crise, ils respectent énormément les règles qu'on leur a imposées. Je constate beaucoup de respect du couvre-feu. Il peut y avoir ici ou là, évidemment, des exceptions. Mais pour passer beaucoup de nuits avec les policiers et les gendarmes, partout sur le territoire national, je constate que les Français, malgré, bien sûr, des réactions d'humeur et la difficulté de la situation, respectent les règles que nous imposons.
Vous allez amplifier les contrôles avec les beaux jours, parce que c'est vrai que ça peut donner envie de sortir.
En même temps, il y a l'espoir donné par le président de la République qui évoque dans les semaines qui viennent du mieux, parce que nous sommes à 13 millions quasiment de personnes vaccinées de première dose. Et on voit l'arrivée de cet espoir. Le beau temps, c'est aussi un moment pour que les gens restent dehors et se contaminent moins par définition. Donc on va à la fois rajouter des contrôles. Vous avez vu qu'on a fait des contrôles vis-à-vis de l'extérieur, notamment du Brésil. Et puis deuxièmement, je constate aussi que malgré ce respect, malgré l'envie de voir l'espoir arriver, les services de réa sont très impactés. Dans mon département, le Nord, il y a plus de gens en réanimation aujourd'hui qu'il y en a eu lors du premier confinement. Donc ça reste une maladie extrêmement violente, extrêmement grave.
Une affaire dans l'actualité qui a frappé les Français, c'est l'enlèvement de la petite Mia, Gérald Darmanin. Le Parisien nous apprend ce matin qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre un certain Rémi Daillé-Widmann, une sorte de gourou, une figure de la sphère complotiste. Il est réfugié en Malaisie. Est-ce que vous connaissiez son nom ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce matin ce mandat d'arrêt ?
Ce que je peux vous confirmer, c'est que les gendarmes, des centaines de gendarmes, travaillent sur l'affaire de la petite Mia, qu'ils ont retrouvée saine et sauve, ce qui est un défi et ce qui était important. Ils ont trouvé les personnes responsables de ce rapt, et qu'effectivement, il y a des ramifications qui semblent à la fois survivalistes, vous savez, ces gens extrémistes qui considèrent qu'il faut se protéger contre tout et qui sont capables de tuerie. On l'a vu au drame d'Ambert avec les 3 gendarmes qui sont décédés à Noël. Et puis des ramifications internationales.
Et on le recherche donc cet homme ?
Par définition, le ministre de l'Intérieur ne donne pas des informations particulières sur les enquêtes en cours. Mais en tout cas, il y a des ramifications internationales. La Suisse pour le retour de madame la mère et de sa fille, et puis pour d'autres personnes.
Donc on le saura peut-être dans les prochains jours. On en vient à l'actualité policière, Gérald Darmanin. Les syndicats de police appellent aujourd'hui à des rassemblements devant tous les tribunaux de France pour protester contre le verdict en appel qu'ils jugent trop clément dans l'affaire de Viry-Châtillon, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. C'était en 2016, des policiers qui avaient été brûlés dans leur voiture. Est-ce que vous soutenez cette mobilisation, Gérald Darmanin ?
Moi, je ne soutiens pas les manifestations devant les institutions. Et je me fixe deux règles depuis que je suis ministre de l'Intérieur. Ne pas commenter une décision de justice, quelle qu'elle soit, et soutenir les policiers victimes. Parce que ces policiers ont été reconnus comme victimes par le tribunal. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été condamnées à des peines lourdes par la cour d'assises, je voudrais le rappeler, jusqu'à 20 ans de prison. Et ils ont été victimes d'actes absolument ignobles et odieux, d'actes de barbarie. Vouloir brûler vif des policiers dans une voiture, il n'y a pas d'autre mot que de dire que c'est de la barbarie. Et donc samedi matin, je les recevrai, ces policiers.
Policiers, samedi matin, vous les recevez.
Exactement. D'abord pour leur apporter une nouvelle fois le soutien du gouvernement, comme l'a fait le gouvernement de Bernard Cazeneuve, puisque c'était en 2016 que ces faits ignobles se sont déroulés. Et de manière générale, le soutenir, comme je le fais tous les jours, les policiers et les gendarmes. Et le président de la République, hier, a eu l'occasion, dans un grand journal, mais aussi en déplacement, de leur redire leur soutien.
Mais on va y revenir, mais les recevoir à Beauvau, est-ce que ça ne sonne pas comme une forme de désaveu de la décision des magistrats ? Est-ce que vous estimez que la justice est globalement trop clémente quand il s'agit de violences aux policiers ?
Vous savez, je n'oppose jamais la police et la justice, d'autant que dans cette affaire, c'est la cour d'assises, c'est-à-dire des jurys populaires qui ont donné ce verdict. Moi, je n'étais pas au procès, donc je ne commande pas ces décisions de justice. Je veux dire en revanche que la société, l'État, les politiques, le ministre de l'Intérieur doivent soutenir les policiers et les gendarmes lorsqu'ils sont... comme c'est trop souvent le cas, agressé verbalement, psychologiquement, physiquement. Je rappelle que je suis le ministre d'une administration qui a perdu 11 de ses fonctionnaires l'année dernière en service. Et qu'il y a des milliers chaque année de policiers et de gendarmes blessés. Donc on ne peut pas faire la politique du hasard de l'actualité. Le jour où ça ne se passe pas bien pour les policiers, vraiment vouloir les soutenir, y compris médiatiquement, et le jour où ils sont en difficulté, de leur dire « mais alors, on leur doit davantage d'inspection, on doit davantage les contrôler ». La police, c'est une magnifique administration,
c'est
et
magnifique,
c'est des gens très courageux.
Qui a aussi une forme, ressent une sorte de malaise aussi. Par exemple, peut-être quand ils ont lu Emmanuel Macron dans le Figaro, qui fait un peu du « en même temps », il soutient les forces de l'ordre, mais reconnaît qu'il existe des contrôles au faciès. Il le redit, il faut nommer les choses et les regarder en face. Est-ce que pour vous aussi, Gérald Darmanin, eh bien, il y a des contrôles au faciès dans notre pays ?
Mais vous parliez tout à l'heure d'Emmanuel Macron. Moi, je voudrais souligner à quel point ce président de la République fait pour les forces de l'ordre. 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous n'avons pu dire partout en France qu'il y aura plus de policiers dans tous les commissariats de France, les grands comme les petits, que lorsqu'il est arrivé en responsabilité. Je prends l'exemple de la loi sécurité globale, dont on m'a dit que jamais elle ne serait adoptée. L'article 24 est toujours là, il va être promulgué par le président de la République. Les remises de peine, vous savez, quand vous êtes condamné, les remises de peine générales ont été abolies, mais c'est une remise de peine automatique, lorsqu'on s'attaque à des policiers ou à des gendarmes. C'est le président de la République qui l'a souhaité. Vous parliez tout à l'heure des contrôles aux faciès. Ouais. Le président de la République, il apporte surtout une solution devant cette question qui se pose et que vous relayez dans les médias. Mais oui, très largement. Les caméras piétons. À partir du 1er juillet,
ces contrôles aux faciès.
Pour lutter contre tout. Pour lutter également contre ceux qui insultent les policiers et qui ensuite, sur des positions, disent « c'est pas vrai ». Et vous savez, les policiers et les gendarmes, ils sont les premiers à demander ces caméras. Aujourd'hui, ils les achètent même eux-mêmes, ce qui n'est pas légal, pour pouvoir se protéger, parce qu'ils sont la cible, souvent, des colibés, des insultes, des lazis. Et moi, je voudrais vraiment redire à quel point le président de la République, on l'a vu hier à Montpellier, et tient la barre ferme. Et il n'y a pas de monopole de l'autorité en France dans les partis politiques. Le président de la République, il est celui qui incarne aujourd'hui cette autorité.
Mais certains y ont vu un virage sécuritaire, justement dans cette interview au Figaro et ce déplacement à Montpellier. Le président de la République reconnaît lui-même qu'il y a une augmentation des violences aux personnes, une forte augmentation. Mais alors du coup, on se dit, Gérald Darmanin, est-ce que ça veut dire que pendant ces 4 ans, vous êtes bien confronté à un mur, qu'il y a eu une forme d'échec de votre part ? Marine Le Pen, qui sera ce soir l'invité de Thomas Soto, dit que le pays est passé de l'insécurité à l'ensauvagement. Gérard Collomb, votre prédécesseur à Beauvau, dit les choses ne s'améliorent pas sur le terrain, même dans les quartiers de reconquête républicaine.
Alors, vous lisez pas très bien, si j'ose dire, l'interview du Figaro, puisque d'abord, le président commence par dire, et c'est un fait incontestable, qu'il y a une baisse généralisée des atteintes aux biens. Il y a moins de cambriolages, il y a moins de voitures volées, il y a moins de voitures brûlées. Et c'est un fait important parce qu'on le doit notamment grâce à la police et à ces moyens technologiques nouveaux que sont les caméras de vidéoprotection. Ensuite, il y a des atteintes aux personnes qui ont augmenté. Pour deux raisons. Les violences conjugales, les violences intrafamiliales, qui ont augmenté de façon extrêmement importante, du fait notamment de la libération de la parole et du Grenelle qu'a mis en place le président de la République. tous les policiers de France, tous les gendarmes de France nous expliquent qu'il y a 5 ou il y a 10 ans, les femmes n'allaient pas porter plainte pour violence conjugale comme ils le font aujourd'hui, et tant mieux. Et il faut qu'elles continuent à le faire. Et puis, les trafics de stupéfiants qui, eux, augmentent.
Oui.
Et ces trafics de stupéfiants, d'abord, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on tienne un discours de banalisation de la drogue.
On va y venir, pardon, Gérard, mais on va y venir, mais tout de même, quand vous voyez, vous entendez Gérard Collomb qui dit les choses ne s'améliorent pas, c'est pas rien quand même.
Monsieur Sportouche, vous arrivez dans la même interview expliquer qu'on est sans doute trop lâche avec les délinquants et en même temps dire politique sécuritaire. Déjà, ce mot m'agace. Mm-hmm. Pas de politique sécuritaire, il y a une politique de la sécurité. Parce que c'est la sécurité, c'est la liberté de chacun de nos concitoyens. Et le président de la République a dit quelque chose de très fort dans cette interview, c'est la politique sociale, la sécurité, celle qui protège ceux qui n'ont rien. Et je n'ai pas du tout l'impression que notre politique s'essouffle. Au contraire, les trafics de drogue, très importants, qui depuis très longtemps dans les quartiers existent, dont la consommation vient souvent d'ailleurs des personnes qui sont plus embourgeoisées, elles concernent tout le monde. Ces questions de trafic de drogue, et ben nous sommes aujourd'hui en train de gagner cette bataille.
Aveu d'impuissance, dit Marine Le Pen.
Non, mais Madame Le Pen, depuis que je suis petit, je regarde la télévision, Monsieur Le Pen, Madame Le Pen, Agnès Le Pen disent ça, ils disent l'immigration est partout, la délinquance est partout, ça fait 40 ans qu'ils le disent. Donc Madame Le Pen, c'est comme un disque rayé qui répète sans cesse des choses et qui par ailleurs ne vote jamais ce qu'on lui propose. Elle n'a pas voté la loi sur le séparatisme, alors qu'elle condamne tous les jours l'islamisme et que nous faisons des choses extrêmement fortes contre l'islamisme. Elle n'a pas voté la création des 10 000 policiers et des gendarmes. Elle n'a pas voté l'augmentation du budget de la justice pour être plus ferme. Elle n'a pas voté la loi renseignement. Elle n'a pas voté la loi contre le terrorisme. Madame Le Pen, c'est le coq de Chanteclerc. Elle voit le soleil se lever, elle pense que c'est elle qui le fait lever. Bon, donc mettons Madame Le Pen de côté.
Xavier Bertrand, que vous connaissez, qui est toujours votre ami, enfin je crois, qui dit que c'est une France orange mécanique.
Oui, mais d'abord ce sont des propos de campagne et c'est toujours dommage de faire des propos de campagne sur des grands sujets politiques.
Mais vous n'êtes pas en campagne. Est-ce que le Front de la République n'est pas en campagne en
Mais non, moi, monsieur, je suis à mon poste de ministre de l'Intérieur et c'est ce que demandent les Français. Tous les jours, j'essaye parce que c'est pas évident et les Français le savent, de protéger nos concitoyens devant des mots qui sont très anciens. Vous savez, la concentration des ghettos, c'est pas Emmanuel Macron qui est élu depuis 4 ans qui l'a fait. Bon, j'ai été maire de Tourcoing avant qu'Emmanuel Macron soit président de la République, dans le quartier de la Bourgogne dont vous avez parlé ce matin, c'est 90% de logements sociaux. Eh ben, non, mais ça fait 20... Ah, mais attendez, sur ce point, voilà, regardez ça, c'est très intéressant. À Tourcoing, la ville où je suis élu, il y a 90% de logements sociaux dans un quartier de 10 000 habitants. Mmh. Ça fait 40 ans que ça existe. Mmh. Ça fait 40 ans qu'il y a 70% de familles monoparentales, qu'il y a de la drogue partout et qu'il y a des gens très courageux qui essaient de s'en sortir. C'est grâce à Emmanuel Macron qu'on met 300 millions d'euros pour refaire totalement ce quartier.
Mais Gérald Darmanin,
et vous allez dire au président de la République qu'il est responsable de cette situation.
Eh bien attendez, je vais vous faire écouter justement parce que tout le monde a été interpellé hier par cette femme voilée, Naïma Amadou, c'est son nom, qui a interpellé à Montpellier le président de la République. Écoutez.
Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans. Il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a un manque de mixité dans le quartier. Je lui ai dit non, mon fils Pierre existe vraiment. Il y a des gens qui s'appellent Pierre.
Le prénom de Pierre existe vraiment, dit-elle.
Voilà, oui, j'étais là. On
voit un président un peu sidéré. C'est pas son habitude, il a toujours plutôt la répartie. Vous aussi, est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous vous retrouvez dans une France en morceaux qu'on n'a pas réussi à réparer? Que le président n'a pas réussi à réparer ces 4 dernières années? C'était son objectif, une France apaisée.
Que le président de la République essaye de réparer, mais vous ne refaites pas le quartier de la Paillade à Montpellier ou le quartier de la Bourgogne à Tourcoing en 3 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La dame qui témoigne, elle témoigne pour deux raisons. Et je trouve que c'est très juste ce qu'a dit cette dame. D'abord, c'est une femme, comme vous l'avez dit, qui était voilée, qui avait le foulard. Et c'est elle qui demandait la mixité sociale. C'est elle qui remerciait les forces de police de lutter contre les stupéfiants. C'est elle qui s'attaquait aux barbus. Elle l'a dit elle-même. Vous avez passé qu'un extrait. D'abord, moi j'ai confiance dans la République lorsque Naïma, qui est née au Maroc, elle l'a dit elle-même. Mm-hmm. Voilà, qui est arrivée à l'âge de 7 ans en France, dit « Moi je veux de la mixité sociale dans mon quartier. Je veux des policiers.
Oui, mais il n'y en a pas.
Je veux lutter contre l'islamisme. » Bien sûr, c'est pour ça que dans le quartier de la Paillade, le maire de Montpellier, je ne le suis pas, vous direz que hier, indépendamment de lutter contre les trafics de stupéfiants, nous refaisons tout dans ce quartier. Et notamment, on évite de faire 90% de logements sociaux dans un immeuble. Ça ne peut pas marcher. Et puis, deuxièmement, moi je constate que cela fait 30 ou 40 ans que cela existe. Et vous me dites, est-ce que ça, vous n'êtes pas sidéré? Mais c'est pour ça que je fais de la politique. Si je ne faisais pas de la politique, si de mon expérience de maire...
On demande ce qui s'est passé en 4 ans. Voilà, c'est aussi ça ce que...
Mais je vais vous amener dans certains quartiers... Regardez, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans 4 ans, en 4 ans? Si vous m'avez accompagné hier avec le président de la République, comme vos collègues journalistes, vous auriez constaté que les policiers municipaux, les policiers nationaux, Naïma, témoignaient de l'hyperprésence désormais de la police et de l'éradication des trafics de drogue dans le quartier.
Trafic de drogue, justement. Alors ça, c'est la mère des batailles, dit le président de la République.
Mais qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans?
Mais soudainement,
il s'est passé,
en 2016,
M. Sportouche,
tout l'inverse.
Que nous reprenons le terrain. nous reprenons le terrain contre le trafic de drogue.
Oui.
Et notamment dans ce quartier. Il y a encore 2 ans, il aurait été impossible à un président de la République, me semble-t-il, de se rendre sur place et discuter avec les habitants. Ces habitants, ils ont été parfois séquestrés par les dealers. Et par le travail de la police, de la mairie de Montpellier, de la justice, on a réussi à mettre ces personnes derrière les verrous.
Mais c'est sur le cannabis, notamment, que vous voulez lutter contre le cannabis. Mais est-ce que c'est vous qui avez changé d'avis, le président de la République ? En 2016, il disait qu'il n'était pas contre la légalisation du cannabis. C'était alors le candidat Macron. Est-ce que tout d'un coup, à l'approche de la campagne présidentielle, le ministre Gérald Darmanin a fait changer d'avis le président Macron et que tout d'un coup, eh bien, il faut une lutte acharnée contre le cannabis ? 17 millions de Français.
Écoutez, moi, j'ai échangé avec le président de la République depuis que j'ai été ministre des Comptes publics, donc en charge aussi des douanes depuis 4 ans. Je l'ai toujours vu très opposé à la drogue. Il a toujours validé toutes les oppositions à la drogue. Et puis, vous savez, cette histoire de cannabis, moi, je trouve que le discours
un peu bobo,
un peu bourgeois de consommation récréative que souvent les beaux quartiers ont. Alors, ce sont les classes politiques, dirigeantes, parfois médiatiques, qui consomment des stupéfiants, disent bon, finalement, c'est pas si grave, un joint de temps en temps, mais c'est extrêmement grave.
C'est ce que dit Jean-Baptiste Mourou, vous savez, un député de votre majorité, qui dit on a essayé la prohibition, c'est un échec, il faut passer à autre chose.
C'est ce que dit Damien Abad aussi à droite, c'est ce que dit Robin Reda à droite. Donc, je pense malheureusement qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent sur cette question. Ça n'empêche pas l'amitié qu'on peut porter pour eux, mais c'est un discours de déresponsabilité. La mère de famille, qui élève seul ses 2 gamins dans le quartier de la Paillade ou le quartier de la Bourgogne à Tourcoing, et qui a 2 gamins de 14 et 15 ans, qui vont qu'à au collège et au lycée, et qui fument du chichon. Alors ça peut être sympathique quand on est dans le 16e arrondissement de fumer du chichon. Mais enfin, la mère de famille qui est toute seule et qu'elle explique à ses enfants que la drogue, c'est de la merde, qu'en l'occurrence, il y aura de la déscolarisation, qu'ils vont devoir faire des petits larcins pour pouvoir se payer leur dose, parce que ça coûte très cher, sa dose d'abord de cannabis dont la THC est très importante. Même le journal Le Monde l'a évoqué, on a fait un article complet. Et désormais, la cocaïne qui est partout sur le territoire national, eh ben c'est en santé publique, en santé psychologique et de manière générale dans la vie sociale, c'est affreux.
Vous savez
c'est
combien de Français
attendez,
déjà...
attendez, je termine. Et moi,
17
je suis pas...
millions de Français ont déjà fumé un joint. Est-ce que... et une de vos députées dit qu'il faudrait 330 millions d'interpellations si on veut s'en prendre à tous les consommateurs. Voilà ce que dit Caroline Janvier. Donc elle dit c'est un peu de l'esbrouffe, on ne pourra pas faire cette politique.
Moi, j'ai des convictions. Non, mais mes convictions politiques, c'est pas parce que c'est difficile et c'est pas parce que depuis 30 ans, 40 ans, on a laissé la drogue prospérer qu'il faut aujourd'hui baisser les bras. Deuxièmement, je dis à tous les pères et à les mères de famille qui se battent, tous les éducateurs qui se battent, tous les médecins qui se battent pour qu'il n'y ait plus de consommation de cannabis, chez les jeunes notamment, qui doivent continuer à se battre et qu'on sera derrière eux et que je ne serai pas le ministre qui les grévisera.
Vous n'avez jamais fumé de joint,
non, Gérald Darmanin. Je reconnais plein qui l'ont fait et qui le regrettent. Oui. Voilà.
Même dans votre entourage, des amis qui l'ont fait.
Mais il y en a sans doute et je condamne cette consommation.
Mais alors vous allez faire quoi ? Augmenter les amendes, par exemple, pour consommation ?
Mais attendez, monsieur Sportouche, c'est trop important comme discussion. Tous ces gamins qui sont déscolarisés, sous prétexte qu'on aimerait bien... pour une raison sans doute de politique, parce que ça fait plus sympa de dépénaliser, parce que sans doute c'est très difficile de lutter contre la drogue, on devrait être lâche politiquement. La dépénalisation de le cannabis, c'est la fin d'une certaine autorité. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces trafiquants ? C'est dans le quartier de la Paillade, c'est 20 000 euros en argent liquide, 30 000 euros parfois, à Marseille c'est 100 000 euros des points de deal. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces trafiquants ? Ils vont ouvrir une petite échoppe en payant leurs URSSAF, en payant les impôts, ils vont tenir des horaires à faire l'inspection du travail quand ils vont vendre demain du cannabis.
Vous savez qu'on peut acheter des graines de cannabis en France,
mais ce n'est pas sérieux.
Est-ce que vous allez interdire la vente des graines
de cannabis ? Sérieux. La lutte contre la drogue, et la drogue c'est le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, est une lutte que doivent faire tous les républicains.
Et vous allez interdire la vente des graines de cannabis ?
Ben j'interdirai, mais écoutez, monsieur Sportouche, je suis contre la drogue en général. Mais je voudrais dire aussi que dans ce débat, la droite n'est pas claire. Et je constate qu'il y a beaucoup de dirigeants de droite désormais qui sont lâches sur cette question. Donc posez-leur la même question, la réponse du gouvernement d'Emmanuel Macron est claire. On lutte contre la drogue avec la première des forces, parce que c'est la première des batailles. Mais posez la question aux candidats de droite. Je trouve qu'ils sont désormais un petit peu loin de ce que souhaite désormais la voix populaire.
La campagne est donc vraiment lancée. Merci beaucoup Gérald Darmanin. Bonne journée à vous.
On retrouve bien entendu cet entretien sur le site RTL.fr. Et dans un instant, c'est le journal de 8h sur RTL. Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal de Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, les contrôles fiscaux continuent de remplir les caisses de l'État.
Près de 8 milliards de recettes récupérées par le fisc l'an dernier. Encore RTL vous dévoile ce matin les derniers chiffres. Les enquêteurs français sur la piste d'un gourou complotiste pour expliquer l'enlèvement de la petite Mia. L'homme réfugié en Malaisie fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt international. Recruter des saisonniers, c'était le mot d'ordre de la ministre du Travail. Faut-il encore qu'il y ait des candidats ? Et vous le verrez, ce n'est pas toujours facile. facile. Aux États-Unis, l'attente d'un verdict historique au procès de George Floyd. Et puis, les quarts de finale de la Coupe de France de foot. Rumi va lire les amateurs de Haute-Savoie, tenteront de créer l'exploit tout à l'heure face à Toulouse.
Notre météo, Marina Giraudot.
Avec un ciel couvert sur les régions atlantiques de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées avec quelques averses. Pour les autres, ce sera un ciel variable partagé entre nuages et éclaircies. Éclaircies plus belles sur le sud-est ce matin. Et côté température, encore un petit peu de fraîcheur, mais cet après-midi, ça va bien remonter. Il fera entre 14 et 20 degrés.
RTL Matin.
Et pour démarrer cette question, notre petit café quotidien, celui du matin par exemple, est-il amené à disparaître? L'arabica deviendra-t-il demain un produit de luxe? Ces dernières années, le réchauffement climatique menace bon nombre de cultures. Une augmentation de quelques degrés suffit à détruire les plantations. Heureusement, des scientifiques ont peut-être trouvé la solution pour permettre au café de survivre. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Ils sont allés la trouver au fin fond du Sierra Leone en Afrique. Racontez-nous ça.
Oui, Aaron Davis est un botaniste anglais qui passe sa vie dans les forêts tropicales à rechercher des variétés anciennes de café. Et il a trouvé, dans l'ouest de l'Afrique, en Sierra Leone, le Stenophylla. C'est une variété qui avait disparu à l'état sauvage depuis 1954. Alors aujourd'hui, sur la planète, sont cultivés l'Arabica, qui nous donne les cafés les plus fins, mais qui souffrent à cause du réchauffement. Et puis le Robusta qui porte bien son nom, il résiste mieux mais il est moins bon. Alors cette variété redécouverte est proche de l'Arabica et pourrait être cultivée là où il fait très chaud. Elle peut supporter 6 degrés de plus. Alors des chercheurs français du CIRAD, le centre de recherche agronomique, l'ont fait déguster à un jury de professionnels de grandes marques de café. Les juges l'ont trouvé, je cite, des notes végétales, de goût de rose, de litchi comme les meilleurs Arabica. Aaron Davis a fait la découverte de sa vie. Le Stenophylla va maintenant être cultivé, testé sur des terroirs chauds. Si l'expérience est concluante, les chercheurs espèrent pouvoir commercialiser les premières tasses dans 5 ans.
La survie du café passe donc par le Stenophylla. Merci Virginie Garin.
Et on vous retrouve Virginie juste après ce journal pour une brigade consacrée ce matin à l'avenir de nos centrales à charbon. Celles ne sont pas si évidentes à fermer.
Année particulière, mais récolte fructueuse. L'an dernier encore, la lutte contre la fraude fiscale aura permis au fisc d'engranger les recettes. Certes, les contrôles ont été moins nombreux en raison du contexte sanitaire et économique, mais les enquêteurs de Bercy n'ont pas chômé et les résultats sont là, Arnaud Touche.
Oui, une année particulière, puisque les contrôles physiques ont dû être suspendus pendant quelques semaines, notamment lors du premier confinement. Mais pour autant, 365 200 contrôles ont été menés l'année dernière, comme le détaille Olivier Dussopt, le ministre délégué au compte public.
Ça se traduit par une diminution du nombre de dossiers, mais derrière cette diminution du nombre de dossiers, les résultats sont des résultats qui sont très corrects et qui se tiennent, puisque en 2020, nous avons encaissé plus de 7,8 milliards d'euros de résultats de la fraude et de la lutte contre la fraude. Légère augmentation par rapport à 2018, c'est un peu en recul par rapport à 2019, bien évidemment, puisque moins de dossiers examinés au cours de l'année 2020.
Autre nouveauté en 2020, le fonds de solidarité, et là, les contrôles ont été bien nombreux.
C'est plus d'un milliard d'euros qui ont été ainsi protégés et qui n'ont pas été versés indûment.
Certains ont quand même perçu des aides auxquelles ils ne pouvaient pas prêter. Et cela représente aujourd'hui 64 millions d'euros que le fisc compte bien récupérer au plus vite.
Les chiffres RTL du contrôle fiscal révélés ce matin par Arnaud Touche. Troisième nuit d'émeute à Tourcoing, dans le Nord, dans le quartier sensible de la Croix-Rouge. Des affrontements ont eu lieu entre policiers et jeunes du quartier. À l'origine de cet embrasement, une intervention pour mettre fin le week-end dernier à un rodéo sauvage.
8h04, une semaine après l'enlèvement de la jeune Mia, les recherches se concentrent désormais sur un homme, figure de la sphère complotiste.
Rémi Deye-Widman, un Français de 54 ans, réfugié en Malaisie, où il publie régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos à destination de ses nombreux adeptes. Selon nos confrères du Parisien, les enquêteurs le soupçonnent d'avoir organisé, peut-être même financé l'enlèvement de la fillette et d'avoir au minimum inspirer les ravisseurs. Bonjour Guillaume Chiez.
Bonjour.
Car parmi les thèses défendues par cet homme, il y a celle de la déscolarisation des enfants et la mère de Mia y avait totalement adhéré.
Oui, ce pasteur autoproclamé touche à tout, vaccin, masque, xénophobie, école et renversement populaire. Ces vidéos sont vues des dizaines de milliers de fois. Daye Widman, ancien président du Modem de Haute-Garonne, a été exclu en 2010 du mouvement politique. Il tient donc un site sur l'école à la maison et dans ses vidéos, il se dit prêt à aider les parents à sortir leurs enfants du système.
J'accompagne les parents et je me suis fait une spécialité de montrer comment on peut réellement aider son enfant à grandir avec une véritable instruction. On a eu pendant des siècles et des siècles, pendant des millénaires, cet instinct, cette fibre d'éducateur, on l'a perdu. On l'a perdu parce qu'on n'est plus en contact avec l'enfant.
La mère de Mia était donc acquise à cette thèse et ce n'est pas la première fois que le nom de Daye Vindman revient dans une affaire judiciaire. En novembre dernier, le déséquilibré qui a foncé dans une gendarmerie de Dax se revendiquait déjà de lui. Désormais, les enquêteurs souhaitent l'entendre, d'où ce mandat d'arrêt international révélé par nos confrères du Parisien. Ils espèrent que la Malaisie le livrera aux autorités françaises pour déterminer le rôle exact qu'il a pu jouer dans l'enlèvement de la petite fille.
Merci beaucoup Guillaume Chies.
Dans un instant, la déprime des patrons de restaurants recherche saisonnier désespérément.
J'ai aucun CV, c'est aussi simple que ça. Zéro, personne. Cuisinier, serveur, rien.
Alors redémarrer dans ces conditions s'annonce bien difficile, on vous en parle sur RTL. A tout de suite.
RTL Matin.
Il est 8h08, la suite du journal de Dominique Tenza. Ils sont prêts à rouvrir leur terrasse dans quelques semaines, leur salle d'ici l'été. Ne manque plus que la main d'œuvre.
Et cette année, elle semble avoir déserté. Certains restaurants, bars, cafés tentent désespérément de recruter pour le jour J, le jour où tout repartira. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, leur a d'ailleurs demandé d'embaucher des saisonniers, quitte à les placer pour l'instant en chômage partiel. Le problème, c'est qu'il n'y a pas foule. Écoutez ce reportage à Carnac, dans le Morbihan, de Nicolas Bobby.
Le West Pub restaurant sert habituellement 120 couverts. Situé à côté de l'océan, son patron Yann Monod rame.
J'ai aucun CV, c'est aussi simple que ça. Zéro, personne. L'année dernière, en tout cas, et l'année d'avant, on avait déjà à cette époque-là, j'avais au moins une cinquantaine de CV. Là, cuisinier, serveur, rien. Bon, c'est une galère. Comme un grand, s'il le faut, je le ferai tout seul. L'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Hein. Je me suis fait planter par trois saisonniers. Je prenais moins de monde, mais au moins, j'étais tout seul à travailler.
Au restaurant italien Le Grissini, l'équipe en salle revient, mais les jumeaux Maël et Mewen Pingrenon recherchent désespérément un pizzaiolo et un commis.
Je comprends très bien à leur place que si on leur propose de l'emploi dans un autre secteur d'activité, qu'ils puissent y réfléchir et se tourner vers un autre milieu qui est peut-être pas le leur de base.
C'est avec plaisir qu'on forme des gens qui n'ont pas du tout d'expérience parce que le métier en soi, il s'apprend assez vite. On recherche plus une attitude que des gens qui ont une certaine expérience professionnelle.
La désertion des saisonniers peut également s'expliquer par le peu de logements à des prix élevés.
Peut-être aussi. Reportage de Nicolas Bobby. L'application Tous Anti-Covid évolue. Elle permettra désormais d'intégrer les résultats des tests PCR et antigéniques. Une expérimentation va être lancée pour les vols à destination de la Corse et des Outre-mer. 350 000 vaccinations désormais en moyenne chaque semaine. Un chiffre dont se félicite Olivier Véran, le ministre de la Santé. Les éboueurs et les conducteurs de bus pourraient être ajoutés à la liste des professions prioritaires.
Il est 8h10. La tension aux États-Unis alors que doit être rendue dans les heures qui viennent. Peut-être les minutes d'ailleurs, le verdict au procès de la mort de George Floyd.
Le jury s'est retiré il y a quelques heures, effectivement, pour décider si oui ou non Derek Chauvin, cet ex-policier, est responsable de la mort de celui qui est devenu depuis le symbole des violences policières sur les Noirs. Même si ce type de condamnation est très rare hein, aux États-Unis, les jurés ayant tendance, Lionel Gendron, à octroyer aux policiers le bénéfice du doute.
Oui, et à l'ouverture du procès, des proches de George Floyd prédisaient le verdict, non coupable, en s'appuyant sur le poids de l'histoire. Il y a un an, Breonna Taylor est tuée dans son lit pendant une perquisition qui ne la concernait pas. Deux policiers acquittés, un troisième inculpé, mais pour mise en danger des voisins de la jeune aide-soignante. Michael Brown, un adolescent noir tué par un policier blanc à Ferguson en 2014, Eric Garner à New York, pas de condamnation. Jusqu'à Rodney King, il y a 20 ans, tabassé par quatre policiers blancs acquittés. Le verdict avait entraîné des émeutes à Los Angeles. Dans les cas de violence policière, le doute bénéficie souvent aux forces de l'ordre, surtout quand la victime est noire, ajoutent les militants antiracistes. Mais il est rare que des policiers soient désavoués par leur hiérarchie, comme l'a été Derek Chauvin, et c'est ce qui pourrait cette fois changer la donne.
Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux États-Unis.
Il est 8h11, les quarts de finale de la Coupe de France de foot démarrent ce soir.
Avec l'affiche de la soirée, Canet en Roussillon, le club catalan tombeur des Marseillais en 8e qui affronte Montpellier et qui va tenter d'accéder en demi-finale. Juste avant cela, autre rencontre, là aussi atypique, entre d'un côté Toulouse et de l'autre les amateurs de Rumilly-Vallières, petit club de Haute-Savoie dont les joueurs ont fait du foot une passion, qu'ils tentent de conjuguer à l'année. Avec leur métier, c'est pas toujours évident, vous allez l'entendre, reportage de Serge Pueyo.
À Rumilly-Vallières, on est bien loin du foot business. Stéphane Biglierchio, 31 ans, milieu défensif de l'équipe, fabrique des fromages. Le célèbre Roblochon, fierté de la Haute-Savoie, et le matin, il commence tôt.
Je commence à 5h30, tous les matins. 5h30 à la fromagerie, 6 jours sur 7, ouais. Je retourne les reblochons, je presse les reblochons, et en dehors de ça, ben, j'ai l'entraînement le soir, c'est dur. Ben voilà, je suis un amateur, il faut que je travaille à côté, sinon on ne vit pas quoi.
Le reblochon, ça donne de l'énergie pour un footballeur?
Franchement, au début, j'en mangeais pas mal. J'en mangeais un peu moins parce qu'on est pesé chaque semaine, donc ça posait peut-être problème.
Le match contre Toulouse, vous en faites pas tout un fromage ?
Ah, bien dit. Non, non, du tout. On se dit que tout peut arriver en Coupe de France et on va tout faire pour.
Luc Chabert est l'un des 4 coprésidents du club. C'est aussi le patron de la fromagerie où se fabriquent les reblochons qui portent son nom.
Toulouse, c'est plutôt le pays du cassoulet.
Qui veut l'emporter, reblochon ou cassoulet ?
Reblochon, évidemment. On est des gens de la montagne. C'est vrai qu'on a la valeur du travail. Et on sait souffrir sur le terrain, donc on sera dur à cuire. Le reblochon va tout faire pour l'emporter.
Voilà.
Verdict en tout cas, 18... la promotion du reblochon est réussie.
Assuré. Verdict 18h45, début du match.
Merci beaucoup, Dominique. On se retrouve à 9h. Dans un instant, Jean-Mathieu Pernin va démonter une nouvelle infox. C'est notre bureau de vérification de l'information. Et Michel Simès va tout nous expliquer concernant l'arthrose. Vous avez de la chance. Allez, à tout de suite sur RTL.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Il est 8h15, merci d'écouter RTL. On regarde ce qui se passe du côté des intox, des fausses informations avec vous, Jean-Mathieu Pernin. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, un joueur qui participerait à la Super League peut-il être privé de compétition internationale comme l'affirme la FIFA ?
Et oui, une vingtaine des plus grands clubs dans une compétition fermée ne s'affrontant qu'ensemble, voilà, pour des matchs très rentables. La Super League, ça fait trembler. Au moment où les sécessionnistes du Protège Tibia annonçaient leur intention de faire bande à part, l'instance suprême du ballon rond, la FIFA, sort le carton rouge. Cette concurrence l'inquiète et dimanche soir publie un communiqué signé par les 6 confédérations, dont l'UEFA, expliquant que si le projet de Super League se concrétise, je cite, « les clubs concernés seront interdits de participation à toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial et leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leur équipe nationale ». Une terrible menace quand même, parce que ça voudrait dire que la France serait privée, bah, je sais pas, d'Antoine Griezmann, de Paul Pogba, d'Hugo Lloris au Mondial 2022. Et pourtant, il existe un contre-exemple, celui du patinage de vitesse.
Il concerne un arrêté pris par la Cour de justice européenne.
Et voilà, en décembre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé disproportionnée la décision de l'Union internationale de patinage de priver, entre autres sanctions, de Jeux olympiques des patineurs de vitesse néerlandais prêts à disputer une compétition privée qui s'appelle l'Ice Derby. La fédération affirmait vouloir protéger l'intégrité de son sport, ce qui n'est pas le cas, mais contrairement au foot, les deux compétitions ne rentraient pas en concurrence de calendrier. Allons donc plus loin et parlons économie, puisque selon le spécialiste du droit européen, Jean-Louis Dupont, interrogé par le journal L'Équipe, ces sanctions voulues par la FIFA et l'UEFA violent frontalement le droit de la concurrence, puisque cette décision a pour objectif d'empêcher la création d'une compétition footballistique concurrence. Oui. Alors le principe de concurrence est un des piliers de la construction européenne, donc il y a une possibilité d'une bataille juridique épique.
Sauf si les États s'en mêlent.
Et voilà Yves, puisqu'hier le journal Le Parisien annonçait avoir contacté l'Élysée, qui parle de regarder s'il n'est pas nécessaire de modifier le droit européen pour essayer de conforter l'UEFA dans les mesures qu'elle pourrait prendre. En gros, ce serait une directive européenne en faveur de l'UEFA. Alors on ne sait pas si au final, bon bah tout ça donnera de meilleurs matchs, mais le sujet a réconcilié les chefs d'État européens, de Macron à Orban, tous contre la Super League. Le foot, plus fort que les vaccins.
Oui, je pense en tout cas que le feuilleton n'est pas terminé. Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin. On va tout de suite retrouver Michel Simès.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour cher Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous avez quelques solutions pour les personnes qui souffrent d'arthrose, des solutions autres que la prise de médicaments.
Oui, les problèmes de mobilité des articulations font souffrir quelques 10 millions de patients qui consultent soit pour des douleurs passagères, soit pour des douleurs lancinantes face auxquelles ils ont tendance à opter pour le geste minimum. Or, rester sur son canapé quand on a des problèmes d'articulation n'est pas forcément une bonne idée.
Il y a quand même un stade au-delà duquel on peut difficilement se faire violence.
Oui, quand la douleur est particulièrement forte, un peu de repos ne saurait nuire, mais entre deux poussées, il convient de ne pas rester inactif. Une douleur, dès lors qu'elle est supportable, ne doit pas vous empêcher de bouger. En faisant travailler vos muscles et vos tendons, vous améliorez l'environnement général de l'articulation et vous évitez une dégradation supplémentaire du cartilage, car elle est là, la cause de vos malheurs. Une dégénérescence des cartilages qui vous empêche de vous accroupir, qui vous fait souffrir quand vous essayez de vous extraire d'un fauteuil ou vous conduit à des efforts surhumains, ne serait-ce que pour enfiler une paire de chaussettes. Vous avez l'image, Yvain allongé sur le lit, la jambe tendue, le menton dans le plexus pour essayer de mettre le bout des orteils dans la chaussette. Tout ça dans un équilibre précaire.
Ah bah oui, je dois dire que c'est assez sexy. Alors pour éviter ces scènes d'une grande pénibilité, je parie que vous allez nous prescrire du sport.
Oui, tout de suite les grands mots Yves. On va parler simplement d'activité physique avec trois options. La marche, le vélo et la natation.
Bah, la natation en ce moment, c'est pas très simple. Hein.
Alors pas simple, effectivement, pour cause de pandémie, mais néanmoins jouable. Certaines piscines sont ouvertes. Il faut, c'est vrai, réserver parce qu'il y a une jauge et des procédures à respecter. En revanche, pour la marche et le vélo, nous avons la bénédiction des pouvoirs publics qui nous ont expliqué que le bonheur était dans le pré, la forêt, ce que vous voulez, en tout cas à l'extérieur, dans une limite de 10 km. La marche, mais surtout le vélo et la natation, présentent l'avantage de nous faire bouger hors charge. Pas besoin d'appui particulier, pas de violence dans le geste, un rythme qui vous est propre. C'est tout bon pour un entretien en douceur.
En marge de ces activités en extérieur, peut-on faire des exercices chez soi, Michel ?
Oui, j'en ai trois à vous proposer pour ce matin. D'abord, pour les articulations de la main, vous utilisez une balle anti-stress. Vous savez, ces balles en mousse particulièrement souple, vous serrez, vous tenez 10 secondes, vous relâchez, une série de 10 chaque matin, ça ira. Pour entretenir vos lombaires, bah vous mettez à quatre pattes sur un tapis de sol, vous devez avoir les bras tendus, ensuite vous alternez en faisant le dos rond puis le dos creux, vous faites ça tous les jours une dizaine de fois, rien de mieux pour vous étirer.
Et le troisième exercice ?
Eh bien il œuvre à soulager vos genoux, vous asseyez sur une chaise, vous repliez une jambe à angle droit et vous tendez l'autre en la faisant glisser sur le sol devant vous. C'est le talon qui reste en contact avec le sol. Là encore, une série de 10 ou plutôt 2 séries parce que bah oui, vous avez 2 genoux. Tout ça ne demande que peu de temps, ne coûte rien, ni à vous, ni à la sécurité sociale.
Merci beaucoup Michel, à demain. 8h21, c'était un des engagements du président Macron, la fermeture des centrales à charbon, nous vous en parlons depuis ce matin. Alors, où en sommes-nous ? Nous allons faire le point avec Virginie Garin de notre brigade RTL, et puis nous écouterons aussi le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard, dans un instant. Restez avec nous.
Yves Calvi sur RTL. Calvi. RTL Matin.
8h22, c'est un des gros dossiers d'information de cette matinale. Je vous le rappelle, il restait en France 4 centrales à charbon. Emmanuel Macron a promis de toutes les fermer avant la fin de son mandat. Alors, où en sommes-nous de l'engagement présidentiel ? La France peut-elle se passer du charbon ? Notre brigade a enquêté. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Les 4 dernières centrales seront-elles fermées avant 2022 ?
Alors, toutes non. Pour l'instant, une seule a cessé de produire, celle du Havre, depuis le 1er avril. Elle va être démantelée. Le chantier va durer 10 ans. Une autre devrait fermer en juin, celle de Gardanne. Et sa cheminée de presque 300 mètres de haut, qui de toute façon ne produisait plus depuis 2 ans à cause d'une grève des salariés. Une troisième centrale devrait arrêter le charbon au printemps prochain, celle de Saint-Avold en Moselle. Alors Gardanne et Saint-Avold devraient être reconverties et produire, mais pas tout de suite, ça prend du temps, de l'hydrogène à base d'eau et de panneaux solaires et de l'électricité avec du bois, de la biomasse, mais plus de 200 emplois devraient être supprimés.
Alors pour ces trois-là, donc promesse tenue, mais une quatrième centrale à charbon va donc continuer de fonctionner,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, celle de Cordemais en Loire-Atlantique, elle va avoir un sursis car c'est la seule façon pour bien approvisionner la Bretagne en électricité. Ça devait être le rôle du réacteur nucléaire de Flamanville, mais son démarrage a pris 11 ans de retard déjà, donc Cordemais devrait continuer avec du charbon et du bois, des pellets de bois, au moins jusqu'en 2026.
Que représente, au moment où nous parlons, le charbon dans l'électricité en France ?
Alors, très peu en fait, 1,18% de l'électricité que nous consommons, mais le charbon sert d'appoint l'hiver quand il fait froid et que les radiateurs électriques fonctionne à fond. Il est utile aussi quand la France cumule des problèmes. Exemple, en septembre dernier, beaucoup de centrales nucléaires étaient en maintenance. Il y avait eu du retard à cause de la crise sanitaire et il n'y avait pas de vent. Les éoliennes ne tournaient pas. C'est le charbon qui a été utilisé.
Il faut rappeler que c'est une énergie très polluante.
Ah, c'est donc moins de 2% de la production électrique, mais 30% des émissions de carbone du secteur. En plus, le charbon est importé de très loin. Les 2/3 viennent de Russie, de Colombie et d'Australie.
Alors, va-t-on pouvoir s'en passer ? Et si oui, comment ?
Alors, il y a plusieurs solutions. La France aura en 2023 une nouvelle centrale à gaz à Landivisiau. Les énergies renouvelables ont enfin se développer, et notamment les éoliennes en mer. Les premiers parcs produiront en 2024. Et puis sinon, la France peut importer son électricité quand elle en manque. Alors, pour l'instant, c'est plutôt l'Allemagne de l'électricité faite avec du charbon. Ce qui va être important, c'est surtout une gestion plus efficace du réseau grâce à l'intelligence artificielle. Éviter les pics, faire des économies, ne pas tout faire fonctionner en même temps, car l'énergie la moins chère et la plus facile à trouver, c'est celle qu'on ne consomme pas.
Merci beaucoup Virginie Garin. Bonjour Jean-François Julliard.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Greenpeace France. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Êtes-vous satisfait, on va dire, de la vitesse d'action du gouvernement sur ce dossier ? Les fermetures de centrales vont-elles assez vite à votre goût ?
Alors sur les fermetures du central à charbon, oui, parce que la promesse était de les fermer avant 2022 et ça va être fait, à l'exception de celle de Cordemay, on vient de l'entendre. Après, on n'est pas satisfait, nous, de la vitesse avec laquelle le gouvernement avance sur tout un tas d'autres sujets liés à la protection de l'environnement et à l'écologie. Mais sur la question du charbon, oui, il fallait le faire. Même François Hollande s'y était engagé. Emmanuel Macron avait repris cet engagement de François Hollande. Très bien, je pense qu'aujourd'hui, en 2021, un pays comme la France, qui se prétend être leader en termes de lutte contre le dérèglement climatique, doit sortir totalement du charbon.
Alors, est-ce que vous comprenez accessoirement que ça puisse rester un usage à la marge, comme on vient de le décrire, ou vous dites la quatrième, il faut la fermer aussi, on ne peut pas rester dans cette situation ?
Non, s'il y a un problème de sécurité d'approvisionnement, bien sûr qu'on est vigilant là-dessus. S'il y a un problème de sécurité d'approvisionnement, en plus pour une région particulière, comme ça a été expliqué, laissons le temps de trouver des solutions. Mais aujourd'hui, le problème de la sécurité d'approvisionnement, et ça a été dit aussi par Virginie Garin, c'est avant tout les centrales nucléaires qui sont à l'arrêt. Aujourd'hui, pendant qu'on se parle, là, il y a une vingtaine de réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt. C'est à peu près 40% de la capacité nucléaire qui ne tourne pas, qui ne produit pas d'électricité, parce qu'on a des réacteurs vieillissants, parce qu'il y a de plus en plus d'incidents de sûreté qui font que les centrales, aujourd'hui, sont toutes arrivent toutes à l'âge à laquelle elles devraient être arrêtées normalement, c'est-à-dire les 40 ans d'utilisation, et qu'aujourd'hui, on a ce problème de notre ultra-dépendance à l'énergie nucléaire pour produire notre électricité en France.
On va de toute façon pas se passer du nucléaire dans les années à venir, dans notre mix énergétique ?
Alors nous, on le souhaite. Nous, on est pour une sortie du nucléaire chez Greenpeace, une sortie progressive, une sortie programmée, une sortie qui s'étale sur une vingtaine d'années. On est bien réaliste et bien conscient que ça ne peut pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Mais en revanche, on est pour une sortie du nucléaire parce qu'on pense aujourd'hui, il faut déjà laisser de la place au développement des énergies renouvelables, laisser de la place à la sobriété énergétique, c'est-à-dire repenser notre consommation et nos usages énergétiques et faire en sorte que si on puisse se passer un jour du nucléaire, parce que ça reste une énergie dangereuse dont on ne sait pas comment traiter les déchets, par exemple, qui s'accumulent un peu partout aujourd'hui en France.
Je reste sur le charbon, enfin je reviens un peu sur le charbon, on va revenir sur le mix ensuite si vous le voulez bien. Que dites-vous aux employés de ces usines de charbon ? Alors je ne sais pas, c'est facile, je ne vous prends pas à témoin en disant vous voulez les foutre dehors, mais voilà. Il y a aussi une dimension sociale et une histoire du charbon dans notre pays qui n'est pas totalement neutre. Qu'avez-vous envie de leur dire ce matin ?
Bien sûr, mais je leur dis que je pense à eux et ce n'est pas du tout démagogique de dire ça. On n'est pas du tout pour une transition écologique qui passe par une casse sociale et par des pertes d'emplois. C'est d'ailleurs tout l'esprit qui nous a guidés dans un rapprochement avec des syndicats, notamment la CGT, qui est aussi très impliquée dans les centrales à charbon, pour essayer de trouver des solutions concrètes à une transition écologique et sociale réussie. Ce qui me sidère aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve encore dans une situation comme celle-ci, avec effectivement plus d'une centaine, je crois, d'emplois qui sont directement menacés là, par la fermeture de celle du Havre, alors que ça fait des années qu'on est censé préparer, anticiper, accompagner ces transitions. On le sait, ces transitions, il faut les mener à bien. On sait que l'industrie du charbon, elle a une histoire en France, effectivement, comme elle a une histoire dans le développement industriel de l'Europe, mais il faut aujourd'hui en sortir pour des raisons environnementales. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas préparé ça plus tôt ? Pourquoi est-ce que les élus locaux, pourquoi est-ce que le gouvernement, pourquoi est-ce que les opérateurs de ces centrales ne se sont pas mieux préparés pour qu'on ne se retrouve pas aujourd'hui dans une impasse avec des gens qui vont perdre leur emploi ?
Vous me dites, on n'a pas freiné le TGV, on savait qu'il allait dans le mur ?
Mais on savait qu'il fallait les fermer, c'était programmé depuis plusieurs années. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été capable de préparer, d'anticiper une reconversion de certains nombres de ces emplois, d'un accompagnement, d'un soutien financier ? Enfin, ce n'est pas une décision qui est venue du jour au lendemain. Ça fait des années qu'on le sait que ça va arriver.
Alors, vous nous parlez reconversion et vous avez parfaitement raison. Est-ce qu'on a une évaluation sérieuse de ce que pourraient être les reconversions en termes de boulot dans l'énergie verte ? Combien d'emplois en France ?
Non, c'est compliqué de le dire, mais on sait qu'à un moment donné, on avait fait le calcul que pour 1 euro investi dans la transition énergétique à travers les renouvelables, c'était 7 emplois développés quand c'était un seul dans le nucléaire, par exemple. Donc on sait aujourd'hui, il y a plusieurs études qui ont été faites, y compris par l'ADEME, l'agence de l'État, qu'il y a à la fin d'une transition énergétique qui va vers le développement des énergies renouvelables, bien plus d'emplois à créer. Bien sûr, il y a des emplois.
7 pour 1 par rapport au nucléaire.
Bien sûr, il y a des emplois qui disparaissent, ça c'est certain, notamment si on sort des énergies fossiles, du pétrole, du charbon et du gaz, ça veut dire des emplois qui disparaissent, mais ça veut dire bien plus d'emplois créés et des emplois qui ne sont pas délocalisables, notamment dans les énergies renouvelables, dans la construction des énergies renouvelables, dans les services, dans l'efficacité énergétique. Il y a un vrai gain en termes d'emploi, un gain net en termes d'emploi à avoir dans une transition écologique réussie.
On peut être précis, par quoi peut-on remplacer la production d'électricité au charbon ? concrètement? Est-ce qu'on a l'outil en face, je veux dire, même si ce n'est plus que 1 et quelques pourcents dans notre pays?
Oui, alors aujourd'hui, oui, parce que le charbon ne représente
pas. Pour que les Bretons ne soient pas dans le.
Bien
voilà,
sûr, dans
et
le,
un
dans
peu d'électricité
dans,
à la
dans
fin
le
de l'année.
Noir, bien sûr. Aujourd'hui, parce que justement, le charbon ne représente quasiment plus rien dans le mix électrique français, on sait qu'on va pouvoir le remplacer. Et d'ailleurs, le gouvernement ne dit pas le contraire non plus sur ce sujet-là précisément. On sait qu'on va pouvoir le remplacer par effectivement un renforcement de l'offre des énergies renouvelables. Là, cette centrale qui va rester, c'est parce que le chantier de l'EPR de Flamanville est toujours en construction et que le gouvernement avait dit que tant que l'EPR de Flamanville ne commençait pas à alimenter la région du Grand Ouest et le Nord en électricité, eh bien cette centrale serait maintenue. Mais nous, on préférerait que ça soit remplacé par des énergies renouvelables. Il y a tout un potentiel de développement des énergies renouvelables en France qu'on n'a pas exploité. Les éoliennes en mer, on est le seul pays avec autant de littoral dans cette région-là. Les Anglais en ont construit beaucoup. Les pays d'Europe du Nord en ont construit beaucoup. Pourquoi est-ce que nous, la France, on n'a pas construit encore des éoliennes offshore? Je crois qu'on
parce
est en train de lancer les premières.
Parce que les villes ne le veulent pas, parce que d'autres lobbies affrontent cette question, parce que les pêcheurs ont peur pour leurs poissons. Enfin,
mais on sait lever ces obstacles aujourd'hui en discutant, en faisant de la concertation, de la consultation. On sait expliquer aux pêcheurs que non, ce n'est pas vrai que les éoliennes offshore vont les empêcher de pêcher leurs poissons. Le problème de la pêche au large des côtes françaises aujourd'hui, c'est pas ça, c'est la pêche industrielle, c'est pas le problème des éoliennes offshore. Donc on sait lever ces obstacles-là à condition de faire preuve d'un peu de volonté politique, d'un peu de pédagogie, d'un peu d'explication. On sait qu'à un moment donné, les Françaises et les Français ne sont pas contre les énergies renouvelables et contre les éoliennes en mer. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on a demandé un jour aux Français si on voulait avoir des centrales nucléaires à côté de chez nous? Non. Bon, voilà, on l'a pas fait. Maintenant,
Du nucléaire sur le plan démocratique est quelque chose qui nous a été imposé.
Exactement. Donc
qui nous a rendu aussi indépendants.
Faisons les choses différemment. Est-on dans la consultation et dans la concertation, et on verra bien que ça passera et que les Françaises et les Français sont prêts à avoir plus d'énergie renouvelable aujourd'hui sur le territoire.
Le mix d'énergie verte aujourd'hui dans notre pays, il peut monter d'après vous, et à quelle vitesse et dans quelle proportion dans notre consommation annuelle tout simplement d'électricité?
Alors, mais c'est même pas nous qui le disons. L'ADEME et d'autres laboratoires de recherche ont formulé des scénarios qui misent sur 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050, c'est cette échéance sur laquelle se sont engagés quasiment tous les gouvernements de la planète aujourd'hui pour une neutralité carbone. C'est-à-dire qu'on émettra autant de carbone qu'on peut le compenser autrement. 100% d'électricité renouvelable en France en 2050, c'est possible. Technologiquement parlant, c'est souhaitable.
Pas sans nos centrales nucléaires.
Si, sans centrale nucléaire, 100% d'énergie renouvelable sans centrale nucléaire, si, absolument. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas 100%
la planète entière pense le contraire. Hein. Les Chinois vont les multiplier, les Américains en auront aussi, les Japonais ne baisseront pas les bras.
Mais non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est 10% de la production électrique mondiale. C'est bien moins que la production électrique à base de renouvelables.
Oui, aujourd'hui. C'est demain.
Mais ça stagne depuis des années. Aujourd'hui, il n'y a pas une croissance de l'installation de centrales nucléaires aujourd'hui dans le monde. C'est pas vrai. À l'exception de la Chine, je vous donne raison sur ce point-là, mais c'est le seul pays. Sinon, il y a plus de pays aujourd'hui qui se détournent du nucléaire et qui sont en train de renoncer au nucléaire que des pays qui sont en train de se tourner vers le nucléaire. Le nucléaire, c'est trop lent à déployer, c'est trop cher pour l'immense majorité des pays aujourd'hui. Plus personne ne trouve d'investisseurs financiers pour construire de nouvelles centrales nucléaires. Et quand on voit le fiasco du chantier de l'EPR Flamanville, aujourd'hui, ça décourage beaucoup d'industriels et de gouvernements de se lancer dans la construction de nouvelles centrales nucléaires.
Une date pour la fermeture raisonnable de notre dernière centrale à charbon et on se sépare?
Ah bah, la centrale à charbon, elle va fermer, je pense, d'ici 2-3 ans peut-être maximum, mais ce sera terminé pour l'histoire du charbon en France.
Ça vous semble raisonnable? En tout cas comme délai.
Oui, ça me semble raisonnable. Honnêtement, l'enjeu climatique, environnemental, il n'est pas dans cette dernière centrale à charbon. Il y a un poids symbolique derrière ça, mais l'enjeu n'est pas là, il est ailleurs.
Merci beaucoup Jean-François Julliard. Je rappelle que vous êtes directeur général de Greenpeace France. Et dans un instant, ça va être notre météo à 7 jours avec Marina Giraudot.
Dans 30 minutes, laissez-vous tenter sur RTL.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsock. La série Lupin a été un immense succès mondial. Plus de 70 millions de téléspectateurs. Avant l'arrivée des 5 derniers épisodes de la saison 1 cet été, Omar Sy revient ce matin sur le phénomène des nouvelles aventures du gentleman cambrioleur. Il évoque aussi au passage son lien avec la plateforme Netflix pour laquelle il tourne en ce moment en France. Rendez-vous avec Omar Sy et Lupin à 9h dans Laissez-vous tenter.
RTL 8h36. Que l'on sourit un petit peu parce que ben oui, y a des aléas à la rédaction, c'est une vie, hein, c'est une vie de groupe, c'est sympathique. Dites-moi, alors bon, bah, ça se dégrade toujours par principe par l'ouest, non?
Bah, c'est le cas là. On a une dépression en fait qui est sur l'Atlantique et c'est vrai que c'est là où ça donne un ciel un petit peu plus couvert. De la Bretagne aux Pyrénées avec quelques averses, plus vers le sud-ouest. Pour les autres, alors c'est pas du tout homogène. Il y a des endroits, il y a des passages nuageux comme l'Île-de-France, la Normandie, mais il y a des endroits, il y a un peu plus d'éclaircies, notamment à l'est du Rhône. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que sur les autres régions, ce sera un ciel variable, parfois des plaques de grisailles, parfois des éclaircies. Pas exclu qu'il y ait une ou deux ondées entre deux passages nuageux cet après-midi notamment. Il y a des brumes et des brouillards, mais ça, ça va se dissiper près des frontières du nord et du nord-est. Et côté température, alors il y a un petit peu de fraîcheur ce matin, mais surtout là où le ciel est dégagé. Mais cet après-midi, les températures vont grimper. On aura 20 degrés à Grenoble, 19 à Brest, 19 à Lyon, 19 aussi à Toulouse et Limoges, 18 degrés à Paris cet après-midi, mais ainsi qu'à Strasbourg.
C'est pas mal, ça.
Oui, parce que 18 à Paris, c'est 3 degrés au-dessus de la moyenne de saison. On devrait avoir 15. 17 à Orléans, 16 à Lille, vous avez vu, je sais compter. Hein.
Oui, oui.
15 au Havre, 14 degrés à Cherbourg. Pour la suite, alors demain, c'est l'inverse. Ah. L'ouest va retrouver du soleil, une bonne moitié ouest du pays. Ça restera encore un peu nuageux à l'est en mauvais temps. Enfin, le mauvais temps, ce sera vraiment sur l'extrême sud. Pyrénées, Méditerranée, avec un risque d'averse, voire d'orage. Côté température, demain matin, 2 à 7 degrés en moyenne, un petit peu plus vers les côtes. L'après-midi, 16 à 20 degrés, sauf en Méditerranée où il y aura du mauvais temps. Et puis, 13 à 16 aussi, au nord de la Seine, parce qu'on va passer dans un flux d'est. Donc, ce sera un petit peu plus frais.
Oui.
Donc, les températures seront un petit peu en baisse au nord. Jeudi, c'est plutôt calme, peu d'averses, assez nuagé encore en allant vers l'est du pays, des températures sans grand changement. Et pour la fin de semaine, vendredi, samedi, plutôt sec et ensoleillé, toujours un peu frais au nord, plutôt de saison au sud, et ça devrait aller un petit peu mieux dimanche côté température, mais il pourrait y avoir une dégradation.
Je me disais quand même, on n'a pas de chance parce que en gros, ça se dégrade par l'ouest, flux du froid arrive par l'est.
C'est un peu ça. En fait,
on est un peu cerné,
mais en fait, on est dans une situation de marée barométrique, c'est-à-dire qu'un anticyclone au nord, une dépression à l'ouest, et l'un et l'autre se battent, et voilà, c'est une situation un petit peu conflictuelle sans que personne vraiment prenne le dessus.
Mais vous êtes avec nous pour nous éclairer sur cette météo. Merci beaucoup, à demain matin.
À demain.
RTL, vous êtes comme ça.
Nous vous faisons découvrir ce matin Marie Curie. Je m'explique, rien à voir avec notre prix Nobel de physique-chimie, non. Il s'agit d'une société de livraison de repas à Bordeaux, baptisée avec une autre orthographe, comme un clin d'œil. Bonjour Denis Grandjoux.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Le principe de cette nouvelle société est d'accueillir des femmes réfugiées, de leur permettre de vivre du métier de la restauration.
Oui, Mariam, qui préfère ne pas donner son nom, a quitté l'Iran il y a quelques années. Elle était comptable là-bas, dans une entreprise, mais sa vraie passion était la cuisine. Et une fois arrivée en France, elle a enfin pu l'assouvir.
Quand j'étais petite, j'aime les cuisiniers. J'aime faire de cuisinier. Ici, j'ai passé mon CAP cuisine. Et maintenant, je fais du cuisine. C'est mon rêve, cuisine et cuisinière.
Les deux fondatrices de Marie Curie, Élise Torel et Sandrine Clément, participent directement à l'élaboration des plats dans un atelier de cuisine mis à disposition par l'Institut culinaire de France.
Trognon. En même temps, on apprend le vocabulaire français. Voilà, exactement. C'est aussi l'idée.
C'est quoi ?
L'idée, c'est aussi que
non,
vous appreniez.
C'est quoi ?
C'est le trognon. C'est peut-être un petit peu plus compliqué pour nous parce qu'effectivement, on ne se comprend pas toujours. Ce matin, j'ai ramené du poulet alors qu'il fallait du bœuf. Mais justement, ce n'est pas en restant chez elles qu'elles vont apprendre le français. Donc, en étant isolées, plus elles seront avec nous et plus elles vont apprendre rapidement.
Et au total, une quinzaine de femmes ont rejoint les rangs de Marie Curie durant ces derniers mois.
Et donc, ces parfums épicés font le tour de la métropole bordelaise chaque jour.
Oui, mais ce jour-là, c'est Mariam et Kouzama qui donnait le tempo iranien et syrien du menu entrée, plat, dessert.
C'est un croquette de pommes de terre, mais en Iran on dit koukou sibzamni. Dedans on peut trouver de pommes de terre, l'aneth sèche, des œufs et fromage de brebis aussi. Sel, poivre, curcuma et aussi un petit peu de safran. Toujours on utilise le safran dans notre plat.
Ça sent bon, hein. Comment ça s'appelle, ça?
Boya Havidj.
Le, pardon?
Morabo Boya Havidj. Havidj, ça veut dire carotte. Morabo, c'est confiture.
Un peu plus loin sur le plan de travail, un rayon de soleil éclaire un magnifique gâteau.
C'est un mamoul.
Un mamoul?
Ouais, mamoul, c'est un gâteau qui est fourré avec une pâte de date. Kouzama vous invite à goûter.
Je peux goûter, Kouzama, non?
Oui.
Franchement, c'est bon. Je savais qu'il fallait que je vienne en reportage d'ici.
Bah, on s'enrichit de leur culture, tout simplement. On met en avant leur culture et puis la cuisine, ça rapproche. Il n'y a pas.
Et je ne suis pas le seul à m'être régalé. Marie Curie est en passe de se faire une jolie place dans la restauration à emporter. L'objectif est à terme de travailler avec une cinquantaine d'entreprises bordelaises et bien sûr d'offrir des emplois stables et pérennes aux femmes réfugiées passionnées de cuisine.
Merci beaucoup Denis Grandjou, RTL en Nouvelle-Aquitaine. Ce matin, vous nous faisiez frétiller les papilles. Lui nous fera frétiller les papilles et même d'autres choses dans quelques instants. Laurent Gérard et toute son équipe.
RTL Matin. Avec Yves Calvi.
Eh bien, chemin faisant, nous voici arrivés à 8h44. Comment introduire avec modernité, n'est-ce pas, un grand rendez-vous de radio.
On dirait du Castex.
Oui, on dirait du Castex, c'est exactement ça. Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Bonjour Monsieur Calvi.
Je suis heureux de vous retrouver.
Bonjour tout le monde, nous aussi.
Nous aussi.
Emmanuel Macron a confirmé que les terrasses et les musées seraient les premiers lieux publics à rouvrir à la mi-mai. Comment le chef de l'État a pris cette décision et surtout, pourra-t-il tenir cette promesse? Pour le savoir, partons à l'Élysée.
Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Emmanuel, Emmanuel, mais Brigitte, arrête de brailler. Je suis en conf-call avec le patron de Pfizer.
Oula.
Ah oui, on s'en fiche de ton Swiffer. C'est pas le moment d'acheter des balais à trappe-poussière. Mais c'est pas Swiffer, c'est Pfizer. Je vais lui acheter des doses parce que c'est mon projet. Et moi alors, quand est-ce que je vais profiter du soleil en terrasse, hein? J'en ai marre de boire ma chicorée dans la cuisine. Bon d'accord Brigitte, on rouvrira à la mi-mai, si tout va bien. Si tout va bien, si tout va bien. Ça fait un an que tu chantes la même chanson. Le disque est rayé, mon petit bonhomme. Et allez, le téléphone maintenant. On n'est jamais tranquille dans cette baraque. Quartier général des Macron, j'écoute. Allô Brigitte, Céline Renaud. J'en peux plus. Bien que je fus la deuxième vaccinée de France après Morissette, le seul endroit où je peux voir les copines, c'est au bac chez le coiffeur. Mais avec le boucan que font les casses chauffants, on ne s'entend pas bavarder. Je vous comprends, ma chère Lynn, c'est insupportable. J'en parlerai au petit. Allez, au revoir. Oh, mais ça recommence. Qui va là? Allô, marraine, c'est Stéphane Bern. Je vous préviens, j'ai déjà acheté 127 tickets de votre loto du patrimoine. Je ne sais plus où les mettre. Je ne vous appelais pas pour le vol, votre Altesse, mais pour vous demander de rouvrir les musées. Pensez qu'au Fion, en Haute-Savoie, le musée du pot de chambre reste clos. Ça fait 6 mois que j'ai une envie pressante d'y aller. J'ai mon passe culture, laissez-moi le sortir. D'accord, mais il faudrait être discret, hein. Papayon, 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 lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer. Ça prenait les genoux dans le quartier.
Quel duo.
Celui-là, on voudrait le réécouter. Jean Lassalle est candidat à l'élection présidentielle. Il doit maintenant réunir les fameuses 500 signatures. Bonjour Jean Lassalle.
Bonjour mes chers compatriotes de France, d'outre-mer et des environs.
Oui.
J'ai besoin. J'ai besoin de signatures. Monsieur Calvi.
Oui.
Vous qui êtes une star. Donnez-moi une photo dédicacée.
Bon, alors ce sont des signatures d'élus qu'il vous faut, hein, oui. Pas des autographes.
Voilà.
Par exemple, des signatures de maire.
Ah, d'accord. Alors je vais aller demander la signature de l'Anne Hidalgo. Anne, donne-moi ta signature.
Non, mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est l'Anne Hidalgo.
Non, écoutez, c'est n'importe quoi quand même.
Ta gueule, bourricot, laisse Mademoiselle Jade s'exprimer.
Ce n'est pas la signature d'un âne dont vous avez besoin, mais d'un maire.
Oui.
Et puis Anne Hidalgo n'est pas un âne, c'est une femme.
Et alors mon âne Hidalgo aussi, c'est une dame. Regardez sa belle robe grise.
Écoutez, c'est pas le sujet. Ce sont des signatures de politique qu'il vous faut.
D'accord. Le cornu.
Voilà.
Oui, c'est ça. Le cornu, ça vous va, par exemple? Par exemple,
ah
bah
oui,
le cornu.
Sébastien Le Cornu. Oui. Bah oui, le ministre de l'Outre-mer. Oui, ça marche.
Alors je vais lui demander. Sébastien, donne-moi ta signature. Il est d'accord.
Mais c'est quoi ce taureau?
C'est mon taureau Sébastien, parce qu'il est bien cornu. C'est pour ça qu'on l'appelle Sébastien le cornu.
Écoutez, c'est désespérant. Ce dont vous avez besoin, c'est la signature d'un être humain,
voilà,
élu de la République.
Voilà.
Mes chers compatriotes, comme vous le voyez, je suis ostracisé. Ostracisé.
Ostracisé.
Ostracisé. Par les Parisiens, tête de chien. Ta gueule, Médor.
Il est petit.
C'est, pas... c'est le cousin basque de Bibi.
J'ai cru que c'était
ta gueule, mais...
non,
et par les parigots tête de veau. Mais ta gueule aussi, réglisse, ou tu vas finir en blanquette. Tiens, ça me donne une idée. Je vous laisse, je vais demander la signature de Jean-Michel Blanquette.
On n'en sortira jamais.
Jamais. L'émission de débat, l'heure des pros, sur CNews, continue de faire parler d'elle, entre les cafouillages et les prises de bec de ses invités. Fort de ses bonnes audiences, notre ami Pascal Praud continue de mettre au point son nouveau format d'émission, qu'il a intitulé « L'heure des crocs ». En voici un nouvel extrait.
Bonjour à tous, c'est Pascal Praud dans l'heure des crocs, l'émission qui aboie quand la caravane passe et qui mord les jarrets des bien-pensants qui ne la regardent pas. Je reçois aujourd'hui quatre éditorialistes chevronnés, Alain Duhamel, Alain Finkielkraut, Laurent Geoffrin et Jacqueline Delaret de Mediapart,
oui, bonjour,
qui nous est imposée, je le rappelle, par le CSA.
Comment
ah oui. Ah oui, c'est exact. Laurent Geoffrin et son baillon à boules me soufflent qu'Alain Duhamel ne viendra pas car il a un petit déjeuner clandestin. Pardon ? Ah d'accord. Il brunch avec Ayana Kamoura chez Pierre-Jean Chalençon. Merci Laurent, vous pouvez vous recoucher. On commence donc avec vous, Alain Finkielkraut. Monsieur Pro, je suis ici pour parler de Kundera dans la Pléiade. Alors j'espère que vous n'allez pas m'interroger sur l'anniversaire d'Elisabeth Lévy au cours duquel j'ai chanté La grosse bite à Dudule avec Pascal Bruckner et Luc Ferry. Oh, attention Alain Finkielkraut, nous sommes à l'antenne. Hein ? Ah bon ? Ça a commencé ? Mais pourquoi diable ne me l'a-t-on pas dit ?
Ah ah, trop tard ! Vous vous êtes auto-dénoncé. On n'aura même pas besoin de le faire dans Mediapart. Vous êtes cuit, cuit, monsieur Finkielkraut.
Gna 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 gna, espèce de délatrice.
Vieux réac, si ce genre à lunettes.
S'il vous plaît, on ne s'insulte pas tous en même temps, sinon les annonceurs qui nous font vivre vont encore se plaindre.
Alors je n'insulte personne, je fais mon métier, je dénonce, j'accuse.
Monsieur Pro, au lieu d'écouter les élucubrations déconatoires de madame Delaret, j'aimerais tout de même que l'on aborde la situation sanitaire de notre pays. Effectivement, une situation toujours aussi désastreuse et mal maîtrisée par les enfermistes qui nous gouvernent, ce qui m'inspire une question pour les auditeurs. La parole sur une autre station, compte tenu de la progression du variant brésilien. Faut-il interdire les gâteries au bois de Boulogne? Je poserai la question au 3210. Il faut cependant préciser par honnêteté intellectuelle que le variant brésilien a de quoi nous inquiéter. Tout à fait, c'est pourquoi je suggère aux incompétents de Matignon et du ministère de la Santé de prendre exemple sur nos ancêtres qui savaient affronter les problèmes avec courage et bonne humeur. Alors, musique !
Que la samba brésilienne, qui permet aux parisiennes, sans avoir l'air d'y toucher, chaque nuit d'écouter. Dansez tous la samba, dansez, mais n'exagérez pas, c'est la samba brésilienne, née d'une chanson païenne, qui sans le moindre faux pas, dans les bras de Bunga vous invite aux ébats de là-bas. Samba, 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 samba.
C'est-à-dire que là, on est sur une autre planète, on arrive à un stade de surréalisme. Je suis
autant dire. On relance la samba brésilienne.
Oui, je suis dépassé. Ben c'est normal, avec
après
un bon variant.
Après le carnaval et les masques, la samba brésilienne.
Oh là là.
Voilà.
Ah oui, on va l'avoir toute la journée.
Oui, je vous remercie beaucoup, parce que moi j'ai quand même une antenne à porter jusqu'à 9h30. Alors, allez, débrouillez-vous avec ça, mon petit.
Il faut qu'on mange maintenant.
Bah oui.
Ah là là, j'en perds ma voix. Bon, c'est alors écoutez, mes enfants, d'abord, merci.
Que fait le bon Cyril, la vidéo ?
Eh ben, le bon Cyril qui est à nos côtés. Bonjour, cher Cyril.
Bonjour.
Va nous proposer une pizza reine ou une pizza Regina.
On verra. Au choix. C'est à la carte.
Ça vous convient ?
Ah, bah oui. À trois couleurs.
Oui, la trois couleurs, merci beaucoup. Bon, alors, on vous retrouve sur le site rtl.fr et on a rendez-vous tous ensemble demain matin.
C'est
merci,
ça.
Bonne samba à vous tous.
À demain, bonne samba, bonne pizza.
À demain.
Matin. Toujours avec vous. RTL Matin, Yves Calvi.
8h56, rebonjour Cyril Lignac.
Bonjour.
Pour vous demander des conseils, nos auditeurs vous posent leurs questions sur rtl.fr/participer. Bastien, lui, vit à Montpellier. Il vous demande conseils pour la préparation d'une pizza reine. Comment éviter que les produits ne rejettent trop d'eau à la cuisson? C'est une bonne remarque.
Oui.
Et comment bien cuire la pâte? Chef, c'est à vous.
Alors, déjà, je vais donner une recette de pâte parce que souvent on l'achète, oui. Mais c'est tellement vite fait. Donc, il faut 500 g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un sachet de levure de boulanger déshydratée que l'on achète maintenant dans les supermarchés, ou à ce moment-là, on demande au boulanger. Mais la déshydratée marche très bien pour la pâte à pizza. On parle de 6 à 8 grammes en général pour les 250 grammes, pour les 500 grammes de farine et 250 millilitres d'eau à température ambiante. Alors moi, je la mets même un peu chaude.
D'accord.
Comme ça, ça aide à faire une pousse assez rapide. Ensuite, ce qu'il faut, c'est choisir ce qu'on veut mettre dans la pizza. Pour éviter qu'elle coule, pas de mozzarella au four.
Ah.
On cuit tomate. Moi, ce que je fais, c'est que je cuis la tomate.
Oui.
Je mets de l'huile d'olive, du basilic. Je mets au four très chaud, 210-220 degrés, pour que la pâte saisisse et qu'elle soit bien croustillante. Et ensuite, ce que j'adore, c'est terminer la pizza avec des toppings. C'est-à-dire, on coupe les champignons de Paris, on les met un petit peu crus, plutôt que de les cuire.
Oui, oui.
La mozzarella ou la burrata, on la met sortie du four, fraîche.
Donc les feuilles d'orge gentiment sur
exactement.
La pizza.
En fait, normalement, quand on achète la pizza, ils mettent tout au four et le fromage est fondu et donc parfois ça coule. Là, l'avantage, c'est de mettre tout à la sortie du four et comme ça, on a une pâte bien croustillante.
Ça, c'est très agréable. Bon, d'autres précisions?
Oui, alors, en fait, on peut aussi faire une pizza à la bolognaise. Donc là, par exemple, on fait la sauce tomate à la bolognaise. Donc, bolognaise de bœuf ou de veau.
Mmh.
On met, bien entendu, directement sur la pâte. On cuit au four et derrière, on termine. Alors, sur les pizzas, on peut la faire aussi à la crème. On peut terminer avec des légumes verts dessus. On peut y mettre ce que l'on veut. J'en appelle à la créativité de chacun.
Ah, donc on fait ce qu'on veut, on peut improviser.
Exactement. L'essentiel, c'est de cuire au four, pâte, tomate ou pâte et crème.
Juste une question. Je vous ai laissé filer tout à l'heure dans la préparation de votre pâte. Est-ce qu'il faut la laisser un peu reposer?
Alors oui, on la laisse un petit peu pointée. C'était pour ça que
c'est 20 minutes, c'est 2 heures
c'est... Non, c'est 20 minutes.
D'accord.
Tranquillement. Ce qui est bien, c'est que dès qu'on démarre à l'eau chaude, on a déjà l'action de la levure, puisque les levures de boulanger fonctionnent avec la chaleur que procure la pâte.
Très bien.
Voilà.
Vous savez quoi? Je suis un mangeur de pizza heureux après vous avoir écouté. Et on retrouve bien entendu la recette sur le site rtl.fr. Merci beaucoup.
Sarah. À demain.
À demain.
RTL.
Il est 9 heures.
RTL Matin, Yves Calvi.
Un point sur l'information avec Dominique Tenza.
Et d'abord, ce mandat d'arrêt international lancé par les enquêteurs français à l'encontre de Rémi Daillé-Widman, 46 ans, réfugié en Malaisie et qui pourrait être à l'origine de l'enlèvement mardi dernier de la jeune Mia. Bien connue des sphères complotistes, ces vidéos réunissent des milliers d'adeptes. Selon nos confrères du Parisien, la police le soupçonne d'avoir organisé le rapt et peut-être même financé toute l'opération. Marlène Schiappa va lancer ce matin les états généraux de la laïcité, des tables rondes, des groupes de travail censés plancher sur la liberté d'expression, l'intégration citoyenne. Les réunions doivent durer jusqu'à l'été, même si l'opposition dénonce un coup médiatique, alors que la loi sur le séparatisme est actuellement discutée au Parlement. Jean Castex sera, lui, dans le Haut-Rhin tout à l'heure pour annoncer la liste des sites retenus pour la construction de nouvelles prisons. 15 000 places supplémentaires doivent être créées d'ici 2027. 350 000 personnes vaccinées en moyenne chaque semaine en France, l'équivalent d'un département, une bonne dynamique, se félicite Olivier Véran, alors que pourraient être intégrés bientôt dans les professions prioritaires les conducteurs de bus et les agents d'entretien. Sébastien est impatient.
On est en première ligne parce qu'il n'y a pas que les masques qu'on ramasse, on ramasse tout ce qui est potentiellement contaminé par le Covid. Moi, en moins d'un an, j'étais dans un atelier où il y a eu 12 cas. Il n'y a pas de tests qui sont faits chez nous toutes les semaines, par exemple. Moi, c'est ce que je pensais faire, enfin, ce que je pensais logique, quoi, faire des tests toutes les semaines pour voir qui l'a, qui ne l'a pas, quoi. Après, c'est à savoir quel vaccin. Ça, c'est le grand débat, mais oui, je suis plutôt pour moi.
Réaction recueillie par Mourad Jabari. L'application Tous Anti-Covid, elle va évoluer. Elle permettra désormais d'intégrer les résultats des tests PCR et antigéniques. Pratique, par exemple, avant de prendre l'avion. Ah, aux États-Unis, le verdict attendu peut-être dans la matinée au procès de la mort de George Floyd. L'ex-policier mis en cause, Derek Chauvin, risque jusqu'à 40 ans de prison. Et puis les quarts de finale de Coupe de France démarrent ce soir. Les amateurs de Rumi, Vallière en Haute-Savoie reçoivent Toulouse à 18h45. Ce sera juste avant Canet-Montpellier à 21h.
Merci beaucoup.